Eh ben, ça fait plaisir. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Alors j'ai souffert le martyre ce matin pourtant. Ouh. Ma matinée a été un long chemin de croix. Non, pas du tout. J'avais une prise de sang ce matin. Une analyse de... Passé un certain âge, le médecin vous dit de temps en temps, hey, « Eh, monsieur Étienne, faudrait faire une petite prise de sang là. Pourquoi? Parce que... » Donc voilà. Donc là, ça fait, j'en fais une tous les... Pas souvent. Sam, je demande des excuses pour ton... Je reviens à toi, Sam, dans un instant. Et tu vas être historiqué, parce qu'il y en a marre maintenant. Tu vas voir. Et donc chez le médecin, donc, voilà. Et donc tous les ans, c'est bien. Oui, bon, en fait, non. Hein. Je pense que j'en fais une tous les 3-4 ans, mais ça va bien, ça va bien. Bon, de routine. Le plus dur, ça a été d'être à jeun pendant 12 heures. Moi qui aime bien grignoter. Moi qui aime bien grignoter. Voilà. Et puis, on est sur Twitch. On dévoile les coulisses. Ah, le jeu hier soir était incroyable, c'est vrai. Et donc, je vais ce matin. Hier, stream hyper sympa, le jeu était incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis rentré. J'ai un peu eu les journaux. Pas le droit de grignoter, pas le droit de manger, pas le droit de boire. Même pas un petit canon, même pas un petit galopin. À jeun, qu'ils ont dit, à jeun. Ah. Et donc ce matin, réveil, douche, douche. C'est pas parce que c'est dur, faut infliger les effluves là, à l'infirmière qui n'a pas demandé ça. Et donc, douche, voilà. Il y avait prise de rendez-vous que la file, il y avait du monde, ça ouvrait à 7h30. Je suis arrivé, il y avait déjà 8 personnes. Je me dis, merde, putain, la revue de presse. Sauf que on pouvait prendre rendez-vous. Et depuis peu dans ce labo, et je pense que les autres ne l'avaient pas fait, puisqu'on s'est tous assis, moi en position 8, on a tous pris un ticket. Et là, une voix s'est élevée, mesdames et messieurs. Une voix s'est élevée en disant, Monsieur Étienne! Drop the mic. Je vais remercier les beats et les subs dans un instant. Vous êtes incroyables. Voilà. Paf! Là, je me suis levé. Je les ai regardés. Chier! Voilà. Non. Oh, le fou du bus. J'espère que personne n'a filmé. Non, et alors, j'étais un peu gêné. Pourquoi j'avais un micro? J'ai toujours un micro dans mon sac pour faire ça. Oui, je leur ai fait un doigt d'honneur, bien sûr. Et donc j'étais un peu gêné, parce qu'à la fois, bah, j'étais dans mon droit, j'avais réservé mon créneau, ce que l'autre n'avait pas fait, sans doute, parce qu'on pouvait aussi venir sans réservation. Enfin, mais en même temps, un peu gêné, parce que je me suis dit, il y a un monde où eux aussi on réservait. Et en fait, la dame qui a appelé, qui a dit, Monsieur Étienne, je la connais. Parce que c'est mon laboratoire d'analyse du quartier, quoi. Du Ticard, quoi, comme on dit chez moi. Et elle me connaît bien, et je crois qu'elle m'aime bien. Voilà. Et donc, voilà, j'ai eu un doute, quoi. Voilà. Puis en plus, en mode, alors, comment ça va? Les gens à qui je venais de dire « Chez » étaient à 2 mètres derrière. Et ils me disaient, alors, comment ça va? Ça va, les enfants et tout? Alors, il y a un petit troisième et tout. Voilà. Donc, on l'a discuté 10 minutes hein, pendant que les autres attendaient toujours. Voilà. tellement gênant. Tellement gênant. Et donc, je suis après, je suis allé faire mes petites affaires, ma prise de sang, et sans jamais me retourner et regarder les autres, quoi. Je sentais leur regard sur ma nuque. Non, je sentais leur souffle sur ma nuque. Me suis pas retourné, mais je pense qu'ils s'étaient levés, les sept là. Les sept mercenaires. Et je pense qu'ils attendaient que ça. La bagarre. Voilà. Donc je suis allé faire ma prise de sang. Entre-temps, la dame de l'accueil m'a dit, ah, il faut faire aussi, il faut faire aussi l'analyse d'urine. Je dis. Mais ça fait 12 heures que j'ai pas mangé, pas bu. que je n'ai pas la que je n'ai pas la peau du ventre bien tendue. Elle me dit, ah mais ah non, mais ah, on vous a pas dit. Non, non, l'eau, vous avez le droit. Non, c'est vraiment en cas d'hospitalisation et tout. C'était marqué sur le truc là. Puis hier, vous m'avez pris le chou avec ça. Dit, pas d'eau, pas boire, pas manger. Et donc voilà. Et donc je dis, ben, elle me dit, est-ce que vous voulez, vous voulez un petit verre d'eau? Et là, la dame, avec les sept qui attendaient toujours de partir chercher un petit verre d'eau. Poi, 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 poi. Poi, 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 poi. Donc, j'ai fait ma prise de sang. L'infirmière était incroyable. C'était une autre dame. J'ai bu mon petit verre d'eau. J'ai fait ma petite affaire. Voilà, il fallait que je fasse pipi dans un petit, comment on dit? Un petit réceptacle, là. Un petit. Je sais pas comment on dit, moi. Dans un truc, là. Je sais pas comment on dit. Un petit pot, un petit gobelet, ouais, un petit récipient, non, une carafe, non, 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 non. Voilà. Et après, et alors c'est pas fini. Du coup là, donc je commence, puis je m'arrête, et puis je retourne voir la dame de l'accueil, ouais, elle qui est en train de traiter un autre dossier avec un monsieur qui s'est avancé. Et je dis, excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir un plus gros parce que je n'arrive pas à rentrer. Non, ça c'est moi qui invente des bêtises, pardon. Je suis désolé. Donc voilà. Donc j'ai. Oh, je suis confus. Je suis désolé. Mais bref, je suis sorti sans regarder les autres qui attendaient là. Sauf un jeune homme qui m'a croisé du regard en mode. Avec un petit sourire en mode, je sais qui tu es. Je sais que tu es un streamer privilège. Hein? Je sais que t'es passé devant tout le monde et que. Tout ça parce que monsieur a un stream. Je sais, je sais. Et je vais tweeter tout à l'heure. Et je vais faire un tweet. Dans son regard, il y avait ça. Et je vais faire un tweet. Voilà. Je vais faire hashtag RN, hashtag Commission de l'Assemblée, hashtag France Télévisions, hashtag scandale. Je vais bientôt hashtaguer. Dans son regard, il y avait ça. M'en fous, je vais jamais sur X. Voilà. Non, le mec avait l'air super sympa. Alors, attends, on n'a pas dit que je faisais un historique tout à l'heure, là? Je suis chaud, là. Donc voici ma matinée, et tout ça, je suis un petit peu en retard ce matin, c'est parce que il fallait que je lise les journaux quand même. Alors attendez, attendez, c'est Tom Tom San, il est où mon Tom Tom San? Ah. Donc. Ok. Alors Tom Tom San. Tom Tom San, qui est là, voilà, avec son fiel, hein, depuis 9h17 ce matin. Attention. Alors, lisons, lisons. C'est un habitué, hein. C'est une habituée. Alors. Merde, non, c'était pas toi. Non, c'est pas toi qui avais dit une dinguerie. Oh putain, je m'en suis pris à toi gratuitement, c'était pas toi. Non, c'était pas toi, c'était. Je m'a trompé. Oh merde, putain! C'est pas toi que je voulais agresser. Parce qu'à un moment, Tom Tom San a dit, mais il est où le AA? Le AA que je poste parfois. Voilà, et comme je pensais que Tom Tom San avait dit un autre truc avant, j'ai répondu, dans ton cul! Voilà. Et en fait, non, c'était pas toi. Oh. Des excuses ou un duel? Des excuses, Tom Tom San. Des excuses. Ouais. Mais je te surveille quand même! Après, Tom Tom a déjà dit des dingueries pendant les attentes. Je sais, je sais. Je sais, c'est. Tom Tom San. Ok? Ok. Voilà. Bon, j'ai un joli sommaire à vous proposer ce matin. Hein? Tu pensais au gars qui t'a appelé vieux? Ah, peut-être, ouais, peut-être, ouais. Bonjour, merci. Attendez, j'ai remercié Zéro Sub ce matin. Merci, Luna. Luna Pierrot. Perrault, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup, merci pour le deuxième mois. Merci Daftra pour les beats que tu as envoyés tout à l'heure. Ça pleut des beats de partout, grâce à toi. Merci Daftra. Merci Javier de Legones. Que tal, hombre amigo? Merci beaucoup, j'espère que la cavale se passe bien. Où que tu sois, Ursien. Est-ce que t'as des nouvelles de ta famille sinon? Désolé. Merci Ursien81 pour le 34e mois, nom de Dieu. Ça me rappelle une chanson d'ailleurs des Weather Girl. It's raining man. Alléluia, it's raining man. Oh yeah. Vous pouvez pas connaître les jeunes. Et c'était pas It's raining bits, it's raining men. Ouais, d'aucuns diront que du coup c'est. Ok, pas trop. C'est un peu la même chose. Peu importe. Emra Cogné de merci pour le soutien. VOD Samuel Mathieu de la chaîne YouTube, il est là. L'ami. Merci beaucoup pour le soutien. Comme Mathieu qui va s'occuper de mettre la revue de presse en podcast audio dans les prochains jours. Parce que Vincent prend des congés, ce qui est scandaleux d'ailleurs. Je ne comprends pas que dans un pays comme la France, avec les problèmes qu'on a, avec la dette qu'on a, avec les sujets qu'on a, les gens qui s'autorisent à prendre des vacances. Donc Vincent prend quelques jours de vacances et Mathieu va le remplacer. Et Mathieu, je ne sais pas quand tu commences, mais je vois qu'il te manquait des infos. Je pense que Vincent va te répondre. Il a oublié de te filer des trucs, c'est ça? Donc merci Mathieu, merci K.O. Kung 94. Gorzak, j'arrive, je vais lire ton message. Daftra pour l'abonnement offert à la commu en plus des beats. C'est beats plus sub. Incroyable. Ketzak pour le 7e mois est formidable. Oh, et je vois hier le. Je vois dans mon fil d'actualité. Je vois quoi? Je vois la dédicace de Sale Histoire. Sale Histoire, c'est une streameuse qu'on a raid hier soir, que j'aime bien, que je suis depuis quelques années déjà. Et franchement. Donc elle est fantasque. La danse. Elle est fantasque. Oh, vous savez quoi? On va même. Ah, est-ce que je suis abonné à elle? Elle est fantasque. Elle a son univers, je l'adore. Voilà. Attends, est-ce que je suis abonné à Sale Histoire? Parce que il y a un monde où je voulais vous montrer. Ah ouais, c'est ça.
Bienvenue pour les gens qui viennent d'arriver.
Oh, je suis dessus! Voilà. Et donc, Sale Histoire, c'est une streameuse que j'adore. Et donc, ces derniers temps, quand on la raid, quand elle reçoit un raid, elle remercie par une danse. Voilà. Et là, ça a duré, je ne sais pas combien, ça a duré une plombe hier soir. La danse de bienvenue. Et elle est incroyable. Hop, je vous montre. C'était hier soir. Là, elle est essoufflée, ça vient de se terminer. Voilà. Et ça dure. Attendez. Ça dure. Là, de 2,32 là. De 2,32 à 2,39. Ça dure 7 minutes. Ça dure 7 minutes. 7 minutes de danse de remerciement. Elle est incroyable. Un petit extrait. Je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de son là? Pourquoi j'ai pas de son? Ah, c'est la fin. Ah, la musique est coupée dans la. Ah, la musique est coupée. Piste 6. Ah, merde. Ah, piste 6. Fait chier. Bah, moi, je vais vous mettre de la musique. Attends. Attends. C'est encore plus drôle? Oui, remarque, oui. C'est encore plus drôle. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Elle est incroyable. Elle danse bien en plus. Elle me bluffe, elle me bluffe. Elle me bluffe. Pardon, mais avec son. Faut dire les termes, son vieux jogging là, son pyjama. Oh là là là, c'est encore mieux. Il y a. Sans la musique, il y a un petit truc de gênance qui se met en place qui est incroyable. Avec le bordel sur son bureau derrière, tout, je valide tout. Elle fait un peu la conne, quoi. Hein? Oh, je l'adore. Et les expressions de visage et tout, à mon avis, c'est quelqu'un qui fait du théâtre, ça, c'est pas possible. Elle a un vrai talent, quoi. J'avais pas vu ça hier. J'avais raté le high kick. Elle est drôle, non? Je la kiffe. Voilà. Elle est vraiment étonnante. À mon avis, c'est quelqu'un qui fait du spectacle, du théâtre, ou je sais pas, elle a fait les arts du cirque, je sais pas. Sale Histoire, Sale Histoire. Salistoire. Sale Histoire. Très forte en autodérision, exactement. Alors, je vous lis un petit peu parce que j'ai vu des messages. Merci que la ma coquine tu régales. Merci pour ton message. Merci pour le 46e mois. Fais rire. Attendez, il y avait un long message de quelqu'un. Non, c'était la première fois. Je vais essayer de le retrouver s'il n'est pas trop haut déjà. Ah voilà. Salut Gorzak. Waouh. L'idée d'une petite chronique dans ce format, ce serait de lire un article d'il y a 30 jours, tout pile à chaque fois. Ah, une idée pour contrer les news qui passent trop vite et la surabondance d'infos. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, la promesse de cette revue de presse, c'est l'actualité la plus récente, quoi. C'est un rendez-vous d'actu. Il y en a qui regardent CNews, il y en a qui regardent la matinée Étienne. Personnellement, je préfère la matinée Étienne. Donc, la promesse, c'est d'être sur l'actu du jour, pour que les gens sachent ce qu'ils vont trouver, quoi. Donc, l'idée d'une actu d'il y a 30 jours m'intéresse moins. Et le recul dont tu parles, c'est ce qu'on pratique ici au quotidien. Et c'est pour ça qu'on est sur l'actualité, sur la presse écrite, par exemple, qui est justement un média qui prend plus le temps par rapport aux autres médias. Moi, je dénonce la course de la rapidité et l'accélération du temps info, qui a été accélérée par l'arrivée des chaînes info, par l'arrivée de l'info sur Internet, où il y a une course à la rapidité, et plus on va vite et moins on fait bien. Donc Gorzac, merci pour ta proposition qui est pertinente en vrai, mais je vais pas la prendre parce que c'est déjà ma démarche. Voilà. Voilà. Mais je pense que tu comprends. Merci Ravenclaw, mais j'aime bien ton idée, parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont très forts. C'est la commu, c'est la commu. Mais c'est moi, Corzac, merci à toi. Ok, bon, on va y aller. 20 minutes, faut pas abuser. Hier, j'ai fait une intro de 45 minutes. Et on est, désolé, je tiens à m'excuser pour hier matin. Hier, on a eu des problèmes de connexion parce qu'il y avait une petite panne fibre dans le quartier qui devait durer plus de 24 heures et qui a duré 2 heures. Donc bravo déjà aux gars de l'opérateur là qui ont assuré. Et donc du coup, j'ai streamé au début avec un boîtier 4G, mais ça fait du lag et tout. Donc c'était pas des conditions de fou pour vous hier, viewers, viewers. Voilà, et donc désolé pour ça. C'était un peu chiant. Donc là, c'est réparé. Donc on va être bien quoi. Mais du coup, je sais que mon boîtier 4G ici, qui est excellent d'ailleurs, il capte pas assez pour streamer en bonne condition ici. Ouais, pas dans cette pièce. Donc, c'est intéressant à savoir pour la prochaine fois ça. Voilà. Mais bon, c'est très rare. Hein. En 5 ans, je crois que des coupures de fibre dans le quartier, j'ai dû en avoir deux, donc ça va. Normalement, on est tranquille pour un petit moment. D'autant que la prochaine fois, je serai peut-être dans un autre studio, puisque j'en ai pas trop parlé encore, mais normalement, à compter de septembre, on sera dans un nouveau local. Comment ça s'appelait le local? Les youtubeurs qui avaient investi un nouveau local, là, le Lot, c'était pas le Lot, le local of all time, c'était pas Joyka avec ses potes, c'était pas le Lot, hein, le Lot, le local of all time. Et en fait, moi j'ai mon lot qui arrive. Mais un putain de lot, quoi. Je vous en dis pas plus. Ouais, mais là, ça fait 5 ans que je stream. Au début, à la maison, comme plein de gens. Et puis, depuis pardon, 3 ans déjà, je l'ai vérifié. 3 ans. Quasiment tout pile. Dans ce studio ici. Et donc là, je déménage parce que là, on met les petits plats dans les grands. Bah, c'est-à-dire que ouais, je veux un super outil de travail, quoi. Ah, c'est ça, il y avait Joyka, Mastu. Voilà. Ah non, alors j'annonce pas que Joyka et Mastu me rejoignent dans le lot. Hein. Il n'y aura que moi dans le lot. Moi, je suis un sauvage. Hein. Je suis un solitaire, moi. Je suis un raon, moi, des âges farouches, tu vois. Ah, mais Joe aura son petit bureau, par contre. Avec des étagères. Samu Corp se développe, exactement. Les modos auront droit à une cave plus grande. Non, elle est plus petite. Ouais, par contre, elle est plus petite. Désolé. J'ai une plus grosse cave là que. Ouais. Mais après, peut-être que je laisserai les modos actuellement dans leur cave et que la nouvelle cave servira peut-être à autre chose. Tu peux nous en montrer un bout? Un bout de quoi? Oh, ah d'accord, oui, excuse-moi. Non. Oh non, 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 non. Non, parce que je ne l'ai pas encore. Je sais. Donc, je sais, j'ai identifié le logement. Donc il sera pour moi, c'est OK. Mais je ne l'ai pas avant la fin juin, sachant qu'en juillet, je suis en Corse. Donc je vais l'investir en août. Le temps de s'installer, je pense que voilà, ça part. Nouveau décor, oui. Alors oui, bah, nouvel endroit, donc oui, nouveau décor. Après, il serait bien que je crée. Oui, là, il faut que je m'en occupe, mais il faudrait que je crée un décor, peut-être un joli décor. Et pour le financement, il y a Lester qui demande le financement. Bah, il y a un petit parti qui me propose de me financer, petit parti en toute transparence, un micro-parti comme on dit, mais qu'elle vend en poupe, dit-il, donc et qui a accepté de me soutenir financièrement. J'espère qu'on va pas leur faire de procès d'intention. Donc oui, ne t'inquiète, pour le financement c'est géré. Et donc voilà, oui, nouveau décor, oui, enfin nouveau lieu c'est sûr, et puis nouveau décor, je vais essayer de faire un truc bien, ouais. Ouais. Mais bon, faudra faire le déménagement et tout. Ça va être du taf, ça va être du taf. Est-ce que tu envisages d'avoir une salle plus grande pour avoir plus d'invités, des débats? En fait, on va recréer ce qu'il y a ici, c'est-à-dire j'aurai un coin pour streamer moi. J'aurai une grande table pour recevoir plusieurs invités, la même table qu'ici, mais avec une. Il y aura plus d'espace. Voilà, donc on sera plus sympa, sera plus facile, sera plus joli, sera plus fa facile techniquement pour Joe. Là, on est vraiment super. Là, on est au chausse-pied. Là, c'est un bordel. C'est un bordel sans nom, quoi. On peut plus mettre un pied devant l'autre. Donc, et puis quoi d'autre? Et puis, il y aura un tapis de course, hein, puisque un des projets, c'est de mettre un tapis de course pour que je puisse faire des streams de running depuis le studio. Par exemple, que mes intros ou mes outros de revues de presse, c'est une façon de m'obliger à refaire du sport parce que j'arrive pas à me motiver. Parce qu'en fait, j'aime trop streamer. Et quand j'ai le choix aujourd'hui entre streamer et faire du sport, qui a été une grande passion dans ma vie, hein, vous savez, à une époque, bah en fait, je préfère streamer. Et donc, je préfère être assis le cul vissé sur mon siège devant mon PC. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je réunis les deux, sinon, je vais jamais refaire de course à pied, quoi. Donc, j'en ai fait trois, Guillaume. Et donc, tapis de course qui permet de faire l'intro et l'outro de la revue de presse, par exemple. Je sais pas, une demi-heure, en running par exemple, ou alors un outro d'une heure après, tu vois, un truc un peu comme ça, pour que je retrouve une hygiène de vie sportive au quotidien. Voilà. Et qu'on profite pour faire du Josh chatting. Donc ça, c'est un projet aussi. Si tu peux acheter un bureau qui monte avec un tapis pour marcher en streamant, c'est pas mal. C'est si mal d'être debout devant. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Après, quand je suis debout, alors moi, quand je suis debout en statique, sans marcher, j'ai très vite mal au dos, quoi. Donc, non, mais si je mets mon running, si je mets mon tapis de course à côté, ça va le faire. Avec le bruit du tapis, bien sûr. Après, j'ai une foulée légère. Moi, j'ai une foulée. Oui, très bonne question sur le bruit du tapis. Moi, j'ai une foulée de gazelle, moi. Moi, j'ai une foulée féline. Hein. Moi, je suis pas. On n'est pas là. Non. Non, non. Ouais, dans le quartier, on appelle le guépard. C'est-à-dire qu'on ne m'entend pas, on ne m'entend pas courir. Ça, on a l'impression que mes pieds ne touchent pas le sol. Ah, ouais. Je vole, exact, je vole. Je vole à 8 km/h à peu près. C'est une catastrophe. Ah, donc voilà, donc ça c'est le projet. Ah, en vrai c'est une galère le bruit du tapis, mais j'arrive à l'effacer avec un micro de merde dont j'ai pas un kit pour toi. Ah oui, mais Fabrica, tu connais ça toi? Eh oui. Ah ouais, alors moi j'aime pas trop je déteste les réglages sur les micros, vous savez, les noise gate, tout ça là, pour enlever les bruits de fond, parce que du coup ça crée des. Ça crée, quand tu commences à parler, ça crée des micro-coupures, il y a un truc, je suis très maniaque là-dessus, je déteste ça. Je déteste mettre des effets sur les micros, notamment de réducteurs de bruit. On a eu beaucoup de débats avec ça avec Joe. que Joe, il aime bien mettre ces trucs-là et moi, j'aime pas ça. Ça fait un son artificiel bizarre. Je déteste ça. Ah, Sunday a détaillé en détail toute sa config Paris. Sunday a un tapis? Ouais, ça fait des petits pops désagréables, ça étouffe des voix, exactement, ouais. C'est vraiment un truc, moi qui viens de la radio, hein, moi j'ai commencé en journalisme radio, et qui fait hyper attention à la qualité du son. Et c'est vraiment une maniaquerie chez moi. Ça crée un truc pas chou, quoi. Donc on verra. Je pense que je mettrai un SM7B comme ça, chaud, avec un bras. Je pense, un truc comme ça. Ça va être cool. Donc ça veut dire qu'à la rentrée, on aura la revue de presse, toujours plus que jamais, avec l'année de 2027 qui arrive là. On va avoir de l'actu. Les petits streams de running au quotidien, Josh Chatting, là. Je vais me refaire un corps d'Apollon. Hein. C'est un corps de Dieu, hein, disons-le. Hein. Ah, puis voilà, qu'est-ce qu'on aura d'autre, on verra. Je suis toujours à la recherche de petites idées, nouvelles idées. Et ça va être ça. Rien que ça, c'est cool en vrai. Merci Quantique. Fabrica me dit, selon le tapis micro, c'est chaud en vrai. Moi, j'ai essayé quatre micros différents. Bah, peut-être que j'aurais besoin de tes lumières, Fabrica. Fabrica qui, justement, lui, sur sa chaîne Twitch, fait ça du tapis en course. C'est vachement intéressant. Sam, as-tu annoncé ta participation à la ZLAN 2026? Oui, tout à fait. J'ai annoncé que je ne participais pas cette année. Hey, Joe qui dit, ok, le tapis arrive lundi, Sam. Mais non, il ne l'a pas commandé encore. On n'a pas de studio encore, on n'a pas le local. Joe, il veut aller trop vite. C'est un fougueux, c'est un fougueux. C'est ça les ados. C'est ça les Joe est dans le chat. C'est ça les jeunes. Mais non, j'ai pas le local encore, je l'ai fin juin. Fin juin, vacances encore juillet, août on emménage. Il va falloir que tu prennes tes petits bras, Joe. Hein. Non, je sais pas, je vais voir si je prends une entreprise. On déménage le setup. Bientôt 40 ans, tu vas avoir 40 ans, Joe? T'es vieux? Non, tu vas vraiment. Ah, c'est vrai que t'as. Bah oui. Ah, bah oui, je sais pour. Bah, je sais. Bah oui, je sais. Bah oui. Ah, c'est vrai. Putain, tu vieillis, hein? Donc, on va bien rigoler avec Joe quand on va installer tout ça. J'ai des lunettes aussi? Non, attends, je l'aurais remarqué, ça fait quasiment 5 ans qu'on bosse ensemble, t'aurais des lunettes. Je l'aurais noté quand même. C'est une petite blague avec Joe récemment lors d'un stream à la maison. Je l'ai regardé, je lui ai dit, t'as des lunettes toi maintenant? Et là, Joe m'a regardé, m'a dit, ben ouais, depuis qu'on se connaît, presque 5 ans. Ah ouais, ok. Je suis quelqu'un de très très attentif, très. Ouais. C'est un moment assez incroyable. T'as changé de lunettes, non? Mais t'es jamais rendu compte que Joe ait des lunettes. Jamais. C'est fou, hein? Physionomiste, voilà. Ça, c'est moi, ça. Tom Tom, t'es pas une fille? Oh, je suis perdu, pardon, je pensais que t'étais une fille, bordel. Bah, tu vois, je suis pas physionomiste. Ok, donc ça va être cool, ça, Joe. Voilà. L'histoire du tapis, là, c'est vraiment un truc auquel je pense depuis toujours, et là, c'était pas possible de le mettre ici. Oh, allez, on bosse? C'est parti pour la revue de presse, les chouchous? T'es pas une fille, Tom Tom San? Ah merde, excuse-moi. Ok, Tom Tom San, comme un garçon, quoi. Ouais, c'est normal, tu serais une fille, tu t'appellerais Nana San. Tom Tom et Nana, pour ceux qui ont la rêve, c'est une rêve de vieux. Warcraft, Samuel, c'est les meilleurs. Comment ça, c'est une rêve de vieux? Oui, c'est une rêve de vieux. Je vais vous régaler là. Voilà, il est 10h30. Je vais vous régaler d'actu. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire? Je vais vous régaler d'actu. J'ai un menu de ouf. Oh! Ok, je vous mets le sommaire. Qui n'est où le sommaire? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. On est le vendredi 24 avril 2026, c'est tous les jours, voilà. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il mouille, c'est la fête à la grenouille, qu'on ait des prises de sang, que sais-je, on est là depuis 5 ans, tous les matins. Et puis si jamais on est empêché, on l'a fait l'après-midi, on l'a fait le soir, c'est tous les jours. Voilà. Donc merci à ceux qui sont là au rendez-vous ce matin sur Twitch en direct pour cette revue de presse, cette matinée Étienne. Merci à ceux qui vont nous écouter en replay sur YouTube. Merci à ceux qui vont nous écouter en podcast audio. Parce que depuis septembre, cette revue de presse, elle est en podcast audio. Voilà. Et c'est un kiff. Le sommaire, qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? De la régalade. Je vais vous régaler d'actu. Voilà. C'est garanti ou remboursé. Pour ceux qui ont pris des subs, hein. Les autres, on va falloir aller se faire voir. Je déconne. Donc, je vais vous régaler. Première info qui est passée inaperçue. Je ne l'ai vu dans aucun journal ce matin, mais je l'ai vu sur le site du Huffington Post. Emmanuel Macron le dit, il va arrêter la politique après 2027. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement. Il ne peut pas se représenter en 2027, on le sait, pas plus de deux mandats consécutifs, mais il peut revenir en 2032 s'il le souhaite, la Constitution ne l'empêche pas, et lui il dit, c'est fini, finito la politique après 2027, je vous en parlerai avec cet article du Huffington Post. Un nouveau dossier, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais bon, bah, manifestement les journaux n'ont pas fait le tour sur les relations entre le RN, le Rassemblement National, et les patrons, puisqu'il y a eu un vrai changement. Du côté du patronat, des grands patrons, de certains grands patrons, qui acceptent désormais officiellement de discuter avec le RN. Donc, c'est une actualité qu'on traite depuis quelques jours. Gros dossier, c'est carrément la une de Libé ce matin. Merci, patron! À titre Libération. Réception au MEDEF, dîner avec les dirigeants du CAC 40 depuis plusieurs mois, des liens formels et informels s'intensifient entre le RN et les milieux économiques. Voilà, donc on lira ce dossier. Le RN, Libé qui estime que le grand gagnant dans cette histoire, c'est pas tellement les entreprises et les patrons que le RN en termes d'image, justement. Je vais vite parce que on est dans le sommaire. Sans transition, un truc qui n'a rien à voir avec le sujet précédent, une enquête de Mediapart sur un quartier précisément à Espaly-Saint-Marcel. Dans la banlieue du Puy-en-Velay, on est en Haute-Loire, un quartier, petit quartier populaire qui s'appelle Larbousset, qui se retrouve opposé à un homme retraité, raciste. Voilà. C'est une actualité que vous avez peut-être vu passer parce qu'il y a quelques jours, ce monsieur a tiré avec un fusil en direction d'un groupe d'enfants qui faisait du bruit, selon lui. Waouh! Et Mediapart estime que ce quartier eh bien, est laissé seul face à ce monsieur au racisme. Donc on lira cette enquête qui est assez complète. On va voir un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. Voilà. Cela n'a pas été démenti? Ah bah non. Non. Du coup, il y a eu enquête là et tu vas voir qu'il y a beaucoup de témoignages. Il y a des photos. Il y a des photos. On voit le monsieur avec sa carabine. Voilà. Donc ça n'a pas été trop démenti. Lui dit, ah oui, mais non, mais ça, c'est des photos qu'on a prises un autre jour. Oui, bah alors monsieur, il va falloir nous expliquer pourquoi vous traînez dans le quartier avec votre carabine, quoi. Hein, avec votre fusil, là. Il va falloir nous expliquer quand même. Hein. Là, il y a quand même vous avez un enfant à 2 mètres de vous, là. Voilà. Donc on va se. Voilà. Oui, et puis oui, il a aussi dit, non, mais c'est de l'IA, ça. C'est de l'IA. Donc voilà, on va se pencher quand même sur ce dossier. Voilà. Ça, c'est les enfants du quartier. Certains qui sont un peu traumatisés par cette histoire. Je crois que ce sont les propos racistes qui sont pas sûrs. Ah bah j'ai une vidéo sinon, DocTizen. J'ai aussi une vidéo publiée par Mediapart, voilà, où il se dit fier d'être raciste. Mais il dit que c'est de l'IA aussi. Ah, eh oui, c'est ça le problème des journalistes. Parfois ils bossent, ils collectent des trucs, des documents, des infos, des témoignages, des images, des vidéos. Voilà. Et c'est là où, justement, on s'approche de ce qui se passe réellement. Ensuite, un sujet étonnant, les JO des dopés, les Jeux Olympiques des dopés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il carabistouille encore? Pas du tout. Vous avez un événement sportif qui arrive à Las Vegas le 24 mai, voilà, avec des champions qui autorisés à être dopés. C'est un truc de fou. Une quarantaine d'athlètes, nageurs, sprinteurs, haltérophiles, âgés de 25 à 35 ans. Voilà. Voilà, ça s'appelle les Enhanced Games, les jeux augmentés. Voilà. Compétition qui encourage la performance améliorée grâce aux substances chimiques et médicamenteuses interdites dans le sport traditionnel. Tout ce qui est interdit au nom de la lutte antidopage, là, c'est autorisé. Avec des arrière-pensées derrière commerciales de ouf. Voilà. Vous allez me dire. Là, en fait, il n'y a plus besoin d'inventer des dingueries dans l'info, il suffit de lire les journaux. On va se pencher là-dessus. L'actu, c'est que ça arrive là. C'est en mai. Un truc qui m'a fasciné dans les échos, quand je vous ai dit que j'allais vous régaler en termes d'actualité ce matin, la révolution de la batterie. Hein, on a beaucoup de révolutions technologiques en ce moment qui se déroulent devant nous. Et on voici une autre, et elle est fascinante. On sait que ce qui freine le développement des énergies renouvelables, ouvertes, vous les appelez comme vous voulez, c'est notamment le stockage. Voilà. Et bien là, il y a une révolution de la batterie qui est en train de se mettre en place, et je trouve ça fascinant, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Des prix divisés par 100, un parc qui double presque chaque année, l'essor des batteries fixes couplées à des panneaux solaires va chambouler le monde de l'électricité. C'est vachement intéressant. C'est dans les échos. Et puis on finira en beauté avec un article dans le Huffington Post ou dans... Ah non, attends, c'est le Huff Post ça? Non, c'est Mediapart ça. Attendez, ça c'est Mediapart, non? Non, c'est le Huff Post. Attends, je reconnais plus la mise en page. Non, c'est le Huff Post. Je me suis pas trompé. Sur la dernière chanson de Patrick Sébastien. Voilà. Lors de son audition devant la commission de l'Assemblée nationale sur duel public, il avait promis une chanson sur Delphine Ernotte. Voilà. Il vient de la sortir. Il l'a sortie hier sur sa chaîne YouTube. Voilà. Alors ne faites pas attention parce qu'il y a 3 semaines, un mois, moi j'ai vu des papiers sortir là-dessus. Et vous allez me dire, non, non, elle est sortie il y a 3 semaines, un mois. Je suis allé vérifier. Il y a 3 semaines, un mois, c'est pas lui. C'est des gars, je sais pas comment ils ont fait ça avec l'IA ou je sais pas quoi. Je crois qu'ils ont sorti sur YouTube. Une chanson, ils ont voulu faire croire que c'était Patrick Sébastien pour faire de la vue, ça a marché d'ailleurs parce que ça a été vu plein de fois. Mais d'après mes vérifications sur la chaîne YouTube de Patrick Sébastien, effectivement, il vient de sortir une nouvelle chanson. Voilà, et le HuffPost nous dit c'est aussi vulgaire que prévu. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Allez, un petit bonus. Un petit, ah ouais. Attends, comment il s'appelle? Patrick Sébastien. Je vous en fais écouter quelques secondes pour vous mettre un petit peu en appétit. Hein? Vous avez... Oui, c'est... Waouh! Alors, Patrick Sébastien, Patrick... Il est où, Patrick Sébastien? Patrick Sébastien, mais elle est où, ça? Attends, sa chaîne a été supprimée depuis tout à l'heure ou quoi, bordel? Ah, je l'ai. Alors, elle est là.
Bon ben là j'ai une chanson un peu spéciale mais je sais pas si je vais la faire.
Ah si si, allez, ah, si.
Vous êtes sûr, vous êtes sûr?
Oui.
T'es sûr? Sûr? Pas sûr moi.
Bon ben d'accord, je vais essayer. Et c'est risqué.
Delphine, si t'avais connu ma pile, on aurait été si heureux. Delphine, si t'avais connu ma pile, on aurait...
Et oui, vous avez bien entendu. Effectivement, c'est une rime riche qui rime avec copine. Je vous parlerai de cet article tout à l'heure et je vous ferai écouter peut-être un extrait de cette chanson qui est une ode, un hommage à la poésie française. Je vous ai dit que je vous allais vous régaler ce matin. Il y a de l'actu. Salut mon crack dur. Voilà. Alors, je pensais aux deux infos aux deux infos qu'on pouvait mettre en avant sur YouTube ce matin. Alors, c'est pas forcément. Enfin, à l'info qu'on allait mettre en avant sur YouTube, je pensais à Macron qui veut arrêter la politique parce que c'est une petite info. Mais je trouve qu'elle est intéressante et je suis surpris qu'elle n'ait pas eu plus d'écho dans la presse. Et j'ai presque envie d'en faire une deuxième sur Patrice Sébastien. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, est-ce qu'on sur YouTube on a le droit de mettre un extrait de la chanson? Avec les droits, tout ça? Je suis pas sûr. Je sais pas si Mathieu est toujours là. Parce que si je peux pas mettre d'extrait sur YouTube, c'est pas tellement intéressant, quoi. Après, on remarque qu'on peut lire le texte. On peut lire les paroles. Peut-être copyright la musique, ouais. Et si je passe, genre, 10 secondes comme je viens de le faire. Voilà, le défécateur m'a dit tu peux mettre un extrait de 7 secondes max sans avoir de soucis. Eh ben, on fera ça. Donc, Mathieu, avec ton autorisation, je vais faire deux sujets ce matin pour YouTube. Macron qui arrête la politique et 7 secondes max de Patrick Sébastien. Mais je vous lirai le reste des paroles. Hein? Ta 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 ta. Ok? Vous êtes prêts pour la revue de presse? Vous avez vu, je vous ai gâté, hein? Let's go. 7 secondes de Patrick Sébastien, c'est pas un peu trop? C'est con, hein? Ça va me faire avoir une crise. Une crise d'asthme. Tu nous la chanteras? Waouh! Ah oh non, t'imagines, je reprends les paroles sur Delphine Ernotte. Mon ancienne patronne, quand même. De la chanson de Patrice Sébastien. Pop, 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 pop. Je vais me faire convoquer à un entretien préalable à un licenciement, moi. Ah non, c'est déjà fait, ils m'ont déjà viré. Donc ça va alors. Non, non, je vais pas vous la chanter. Faut pas déconner. Non, c'est con. Ça va pas du tout. Invite-le. Ah bon, non. Chaîne sérieuse ici. Allez, on y va? Est-ce que vous êtes prêts pour le premier sujet? Prêt? Go! Et hop! Amis de YouTube, un grand bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la matinée Étienne, c'est notre rendez-vous tous les matins sur Twitch, la grande revue de presse. On passe en revue toute l'actu, vous avez le sommaire là. On est le vendredi 24 avril. Et parmi les actus qu'on voulait partager avec vous, il y avait celle-ci. Il y a le président Macron qui dit qu'il va arrêter la politique. Et là, vous dites quoi? C'est marrant parce que le président Macron affaibli. Dans ce second mandat, notamment par le fait qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée. Vous avez noté qu'on parle très peu du chef de l'État dans l'actualité politique depuis plusieurs mois, ce qui est assez étonnant. On ne se rend pas compte à quel point c'est surprenant. J'ai toujours expliqué qu'un président de la Ve sans majorité à l'Assemblée, c'est un roi nu, c'est un personnage institutionnel qui perd la plupart de ses pouvoirs. Donc il a quasiment disparu de l'actualité médiatique et politique. Mais de temps en temps, des voix s'élèvent pour dire, alors il n'a pas le droit de se représenter en 2027 parce qu'il n'a pas le droit de faire un troisième mandat consécutif. La Constitution française interdit de faire trois mandats consécutifs. En revanche, il a le droit de faire un troisième mandat tout court. Donc il avait le droit de se représenter en 2032. Et ça, c'est un truc dont on parle de temps en temps. Et là, il dit qu'il arrête la politique. Et donc, arrêter la politique, ça veut dire qu'il ne se représentera pas en 2032. S'il tient cette promesse, en tout cas, c'est dans le Huffington Post, cette info. Emmanuel Macron veut arrêter la politique après 2027. J'ai pas fait de politique avant, je n'en ferai pas après. C'est extrêmement clair. Il a annoncé lors de son déplacement à Chypre. Emmanuel Macron claquera-t-il la porte de la politique des 2027? Le président a assuré jeudi 23 avril, donc c'était hier, c'est très récent, qu'il ne ferait plus de politique lorsqu'il quittera l'Élysée en 2027, donc après la prochaine présidentielle, après 10 ans à la tête de la France. J'ai pas fait de politique avant, je n'en ferai pas après, c'est extrêmement clair, a-t-il lancé lors d'un échange avec des élèves à l'école franco-chypriote de Nicosie, la capitale de Chypre, où il effectuait une visite officielle avant un sommet européen informel. Je lirai vos messages, vos commentaires dans un instant, bien sûr. Mais je voulais d'abord vous donner les infos. Il a aussi concédé que le plus dur dans sa dernière ligne droite de son double quinquennat, c'était de défendre son bilan tout en ayant l'énergie de reprendre ce qui n'a pas été bien réussi. Et d'ajouter, ce qui est le plus dur après 9 ans, c'est qu'il faut garder ce que tu as bien fait et essayer d'aller plus loin, mais il faudra parfois reprendre les choses que tu as mal faites. Je me permets de corriger. Non, le plus dur pour Macron aujourd'hui, c'est pas ça. Le plus dur, c'est que quand tu rates les législatives et que tu n'es pas soutenu par une majorité au Parlement et à l'Assemblée, eh ben ton pouvoir, il est quasiment disparu. Et tu es un roi impuissant, un roi démocratique impuissant. Emmanuel Macron répondait à la question d'un élève qui lui demandait quand il avait voulu être président et si cela l'intéressait encore de progresser pour la France, a demandé l'élève. J'ai toujours aimé mon pays, je me suis toujours intéressé à la vie de mon pays, mais ça ne fait pas de toi un président, a commenté le chef de l'État. J'avais envie que mes idées puissent se réaliser, je me suis dit, on peut changer les choses plus fort, plus vite, et donc j'ai lancé un mouvement politique et je suis allé à la présidence, rappelle-t-il. Au sujet d'En Marche, qui fêtait ses 10 ans au début du mois d'avril, son fondateur affirmait avoir inventé une nouvelle façon de faire de la politique en partant du terrain plutôt que des appareils politiciens. Il voyait un avenir à son parti et avait lancé « On continue, on ne lâche rien ». Mais c'est toujours pour faire des choses que je crois pas simplement utiles. Qu'est-ce qu'il dit là? Ok, c'est un peu alambiqué, mais peu importe. Mais c'est toujours pour faire des choses que je crois pas simplement utiles. C'est me battre pour que mon pays et notre Europe avancent et puis défendre des valeurs auxquelles je crois. Donc c'est une affaire de passion. Bon, ce sont des propos oraux hein, qui sont rapportés, ce n'est pas un discours. Alors de fait, rappelle le Huffington Post, c'est ce que je vous disais, la Constitution interdit au président de se présenter pour un troisième mandat à la tête du pays, troisième mandat consécutif. Consécutif, il manque un mot important. Mais s'il semble fermer la porte à un quelconque autre poste en politique dès 2027, en sera-t-il de même pour l'élection présidentielle suivante en 2032 ? Bah à partir du moment où il arrête la politique en 2027, il arrête la politique en 2027. Hein. Attendez, j'espère que le message c'est j'arrête la politique en 2027, mais et que c'est, ça veut pas dire je reprends en 2028. Attendez, on revient en arrière. La phrase c'est quoi? Je ne ferai plus de politique. Attendez. Attends, faut reprendre la phrase. Pour être sûr. J'ai pas fait de politique avant, je n'en ferai pas après. C'est relativement clair. Normalement, il annonce là qu'il arrête la politique. Et le Huffington Post de conclure, les mandats d'Emmanuel Macron ont été marqués par la crise du mouvement des Gilets jaunes, déclenchée fin 2018, liée à des revendications sur le pouvoir d'achat, et à des mesures de soutien massif face à la pandémie pour préserver l'économie et l'emploi, à l'adoption de la réforme des retraites qui a relevé l'âge légal en France de 64 ans et suscité une forte contestation sociale. On a un mini bilan résumé là. Et puis la dissolution de l'Assemblée par le président en 2024 a ouvert une période de forte instabilité politique. C'est celle que nous vivons aujourd'hui. Depuis, l'Assemblée et son majorité divisée en trois blocs, le camp présidentiel allié à la droite, ce qu'on appelle le bloc central, les partis de gauche et écologistes et l'extrême droite. Voilà. Intéressant. Voilà. La question, quelqu'un me soufflait à l'instant ce sondage, est-ce que vous croyez à cette annonce? Tenez, on va faire un sondage tout de suite. Amis de YouTube, vous pouvez pas participer là parce que vous allez voir ça en replay, mais je trouve ça intéressant de voir ce que la communauté pense de cette histoire. Gérer le sondage, nouveau sondage, croyez-vous? Que Macron va arrêter. Ah putain, mon clavier est déporté, donc je fais n'importe quoi. La politique, donc croyez-vous à cette promesse en fait hein? Oui. Non. Je ne sais pas. Hop. Vous avez 2 minutes pour voter et c'est parti. Et je vous lis moi. Je pense que oui, me dit Ima Yoyo, il se fera plus de pognon dans le privé. Kaby, beaucoup trop d'ego, il reviendra. Il va dire ça puis se poser en homme providentiel en 2032, me dit Ozymandia. Il va nous faire une Hollande. Alors Hollande avait décidé de ne pas se présenter à sa succession, mais est-ce qu'il avait dit qu'il arrêtait la politique? Non, je ne crois pas qu'Hollande ait jamais dit qu'il arrêtait la politique. Tu confonds avec Jospin. Hollande a dit qu'il ne se présentait pas. Après, il l'a regretté d'ailleurs. Mais c'est autre chose. C'est pas ça à faire une Hollande. Hollande, mais c'est peut-être une erreur de ma part, n'a jamais dit j'arrête la politique. Donc c'est pas ça faire une Hollande. Il doit faire une pause dans le privé puis revenir, estime Lionel Lacroute. Vous êtes plusieurs à penser qu'il pourrait tenter de briguer la présidence de la Commission européenne. Je crois à rien sur le HuffPost, c'est pas une source sérieuse. Kerman, mon petit fou du bus. Le HuffPost cite des propos de Macron. C'est pas. Le truc est sourcé. C'est pas, il a pas, ils ont pas inventé le truc. C'est pas ça une. Oh putain, l'analyse. Je ne crois pas le HuffPost. Mais c'est juste une citation du président Macron. C'est hier. Je ne crois pas le pré... je ne crois pas la qualité de source du président Macron sur le président Macron. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est bien de se poser la question de la qualité de la source, mais là, t'as tapé à côté, là. Alors, j'ai le sondage. Tu te moques? Oui, je me moque, oui, parce qu'à un moment, faut pas déconner, faut être un peu sérieux dans l'analyse, sinon on va nulle part. Hein. On va dans le mur. Alors. Croyez-vous que Macron va arrêter la politique? 68%, c'est non. Vous n'y croyez pas. C'est incroyable. Vous ne croyez pas les politiques? Vous ne croyez pas les politiques. Vous ne croyez pas à la parole politique. Vous pensez que parfois les politiques nous mentent? C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, 19%, ce n'est pas beaucoup. Voilà. Et 13%, je ne sais pas. C'est très intéressant. On n'est pas des croiveurs, nous, me dit Leader Mew. Ouais, donc, pour le dire en des termes un peu houhou, d'analyste politique, vous estimez que la parole du président Macron est démonétisée, quoi. De même que vous êtes nombreux à estimer que globalement la parole des politiques ne cesse de se démonétiser, quoi. Nous sommes dubitatifs, comme me dit Develocity. Ok, c'est intéressant. Je vous lis. C'est peut-être un mensonge sincère, me dit la oui mais non. Moi, je crois Macron à peu près autant que mon gosse de 4 ans qui m'explique qu'il n'a pas mangé la tablette de chocolat, la gueule barbouillée de marron, me dit Marquis McFly. Attends, c'est peut-être pas lui, hein? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a mangé la tablette de chocolat et il a glissé et il est tombé sur l'emballage qui était par terre et hop, au niveau de sa bouche. Ou alors, me dit Brésine Ben, c'est pas du chocolat. Waouh! Waouh! Ok, bonjour, je retiens que vous n'êtes pas convaincu par cette promesse. C'est très intéressant. Et donc, si jamais il tient cette promesse, hein, merci Antobourse pour le raid, c'est adorable. Peut-être que d'ici 2050, je reviendrai vers vous en stream. En vous disant, ben vous voyez, le président Macron n'est pas revenu en politique et ne nous a pas menti. Mais le problème, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu, quoi. Ok. Et toi, Samuel? Oh, j'ai aucune idée, moi. Très bonne question. Et moi, je sais pas. Non, bah ben non, oui, effectivement. Alors. En plus, il peut être sincère aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, mais d'ici quelques mois, quelques années, la donne politique va changer, évoluer. On a une recomposition du paysage politique dans notre pays qui est ultra rapide, qui est assez fascinante d'ailleurs. Et peut-être qu'il va revenir vers nous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et nous dire: Ah, mais finalement, bah, en fait, les choses ont changé. Merci Anto. Et il faut que je me sacrifie là. Il faut que je me sacrifie pour la France. Ouais. Tant pis, je reviens sur ma promesse, qui à l'époque avait du sens. Mais aujourd'hui, L'heure n'est plus aux égoïsmes. L'heure n'est plus aux petits intérêts particuliers. Je sais qu'il y a quelques années, je vous ai dit que je ne referais plus de politique. Voilà. Fatigué que j'étais de ces deux mandats, épuisant. Car ce n'est pas facile d'être président de la République. Mais là, aujourd'hui, je crois que je me dois à la France. Je crois que l'heure est grave. Oui, ça peut être possible. Ouais. Tu fais bien de politique. Ah bah ça fait 30 ans que je les écoute, alors forcément à un moment on s'habitue quoi. Et encore là je pourrais vous le faire beaucoup plus sérieusement que ça. Là je fais un peu mon rigolo, mais je pourrais vous le faire de façon beaucoup plus crédible. Ce qu'il ne sait pas, c'est que moi je vais me présenter en 2027, que je vais gagner, puis après je vais tout faire pour garder le pouvoir en mode dictateur cool, dictateur numérique, dictature 2.0. Et qu'il n'y aura plus d'élection de toute façon. Et hop là! Je déconne, ou pas. On en reparlera. Merci en tout cas de votre échange. C'était très dynamique, très plaisant. On passe au suivant? J'ai trop envie de vous lire. Vous êtes trop drôle sur Macron. Alors, merci patron. Qui dit merci patron? C'est le RN. Attends, non, il faut que je remercie les amis de YouTube parce que on a mis cet extrait-là sur YouTube. Amis de YouTube, merci d'avoir partagé cet échange. Si vous voulez échanger avec nous en direct sur l'actu, c'est sur Twitch le matin, mais ça nous fait très plaisir que vous nous consommiez également comme ça en petit extrait, en replay. Merci, n'hésitez pas à mettre un pouce, un follow de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Deuxième sujet, merci patron. Qui dit merci patron? Le RN, alors, c'est un sujet qu'on a déjà traité ces derniers jours, hein. C'est pas vraiment nouveau. Mais Libération en met une couche ce matin. C'est le rapprochement entre une partie du patronat, des grands patrons, et le parti d'extrême droite. C'est la une là, de Libé, merci patron. Alors les infos pour ceux qui les auraient ratées, réception au MEDEF, c'est pour la première fois dans l'histoire du MEDEF. Un représentant du RN a été reçu officiellement au MEDEF. Ça n'était jamais arrivé avant, donc ça c'est une actu, c'est pour ça que les médias en parlent. Dîner avec les dirigeants du CAC 40, c'est la première fois que des dirigeants du CAC 40, officiellement en tout cas, dînent avec Marine Le Pen, ainsi. Donc c'est pour ça que les médias en parlent, c'est parce que ça n'est jamais arrivé avant. Depuis plusieurs mois, des liens formels et informels s'intensifient entre le RN et les milieux économiques. Il est en train de se passer quelque chose. Lisons ce dossier. Qu'est-ce que vaut l'édito? On va peut-être commencer par l'édito, l'éditorial de Paul Quignot. L'édito, je vous rappelle, c'est un article un peu particulier où le journaliste donne son avis. Piège. Les temps qui courent nous font regretter Laurence Parisot. Laurence Parisot, c'est l'ancienne présidente du MEDEF. Alors qu'elle présidait l'organisation patronale, l'ancienne patronne de l'IFOP avait publié un livre au titre « On ne peut plus clair, un piège bleu marine ». Parce qu'à l'époque de Laurence Parisot, le MEDEF ne recevait pas les représentants du RN ou du FN à l'époque. Après le déjeuner organisé lundi par le patronat avec Jordan Bardella, la même Laurence Parisot s'en est tenue à un tweet. Mais il est cinglant. Hélas, aujourd'hui, il s'agirait d'écrire un deuxième volume qu'on pourrait intituler « Prise au piège ». On pourrait ajouter que les patrons se sont jetés dans le piège les deux pieds en avant, entre invitations officielles à leur raout annuel et rencontres plus discrètes à l'initiative de clubs ou de groupes d'influence. À ceux qui s'étonnent de cette contribution patronale à la stratégie de dédiabolisation de l'extrême droite, certains chefs d'entreprise rétorquent qu'ils ne font qu'être dans la roue des Français qui ont élu plus d'une centaine de députés RN. C'est ce qu'on entend depuis quelques jours. C'est ce que je peux lire dans le chat aussi. Il y a des voix qui s'élèvent depuis quelques jours sur le sujet qui disent bah, c'est normal, c'est un parti qui est représenté au Parlement, qui a des députés, pour lequel les Français ont voté massivement, c'est normal que les patrons les reçoivent. D'autres patrons confient sous le manteau à accepter de recevoir des représentants du RN pour les éduquer afin qu'ils prennent les mesures les moins connes une fois arrivés au pouvoir. Est-ce que le MEDEF rencontre les autres partis pareils du coup? Oui, Flono pour le coup. Par exemple, le MEDEF reçoit LFI, d'après les infos que j'ai pu lire ces derniers jours. Mais la nouveauté, c'est qu'avant, il ne recevait pas l'extrême droite. Donc, vous avez le double discours qui est on reçoit les représentants du RN tout simplement parce qu'ils représentent une partie des Français, et donc c'est normal, c'est la démocratie. Et l'autre, c'est on les reçoit pour influer sur leur programme économique parce que leur programme économique est claqué au sol. Le mieux, s'interroge Libération, ne serait-il pas qu'il n'y arrive pas au pouvoir, voire de s'employer à l'éviter ? Hein ? Rappelons, dans le passé, le MEDEF, par exemple, a appelé au barrage républicain à voter contre l'extrême droite. Ça n'est plus le cas, manifestement. Car ce qui ressemble de plus en plus, ce n'est pas un jugement de valeur ou morale de ma part, je rappelle juste ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé aujourd'hui. Car ce qui ressemble de plus en plus de la part des patrons à un « il faudra bien faire avec au cas où » repose sur l'acceptation d'un flou artistique dans la ligne économique du RN qui devrait plutôt inquiéter le monde de l'entreprise. Libération qui, comme d'autres médias, dénonce en fait le flou du programme économique du RN. Ceux qui disent, y compris ici, moi je sais que le programme RN, le RN a un programme économique de droite, ou qui disent, moi je sais que le RN a un programme économique de gauche, tant mieux pour vous, mais quand vous penchez précisément sur les annonces de ce parti depuis des années, l'évolution de ces annonces, il y a eu beaucoup de changements d'avis, notamment sur la question européenne, les votes des députés, notamment RN à l'Assemblée, les déclarations de leurs responsables, en fait c'est flou. Si vous allez, en fait c'est facile de dire que le RN a un programme économique de droite en allant chercher certains de ses votes, certaines de ses déclarations, une partie du programme, et c'est assez facile de dire aussi qu'ils ont un programme de gauche en allant chercher certains votes, certaines déclarations. C'est assez flou. C'est ce que souligne Libé ce matin. Ce flou ne date pas d'hier, il a été flagrant lors du passage de relais entre le père, entre Le Pen père et sa fille, qui a incarné une inflexion sociale du programme de la formation d'extrême droite. Communément, on dit que Jean-Marie Le Pen avait plutôt un programme économique de droite et qu'il y a une inflexion sociale avec sa fille sur la question notamment des retraites, par exemple. C'est désormais la possible mise sur orbite pour la présidentielle de Bardella, qui est beaucoup plus business-friendly que Marine Le Pen. Donc Bardella, on le dit, beaucoup plus proche des entreprises que Marine Le Pen, qui nourrit cette interrogation majeure. Mais que veut l'extrême droite en matière économique et sociale ? En fait, si vous écoutez Bardella ou si vous écoutez Marine Le Pen, vous n'avez pas le même programme économique. Voilà. Comme le dit Mitsuhiko dans le chat à l'instant, il y a un RN libéral et un RN étatique. Ouais, mais s'ils arrivent au pouvoir, lequel va être élu ? Et pour quelle politique ? C'est ça la question. Personne n'en sait vraiment rien, dit Libé. Le problème est que ce flou, qui n'a pas l'air de déranger les patrons, entretient la fable que les classes populaires et moyennes y gagneraient si l'extrême droite devait l'emporter dans un an. Concrètement, par exemple, quelle politique fiscale va être mise en place ? Marine Le Pen, dans son histoire politique, a des positions plutôt proches des classes populaires. Voilà. Et une défiance vis-à-vis des grandes entreprises et du monde de l'argent. Voilà. Et Bardella n'a pas eu tout ce discours-là, par exemple. Donc, on va rentrer dans le détail. Quelqu'un me demande, par exemple, c'est intéressant, c'est une bonne question. Attends, je t'ai vu. Barbare de Delite 98, est-ce qu'on a un exemple de déclaration contradictoire ? On va se pencher dessus dans un instant. Que là, c'est juste l'édito, mais on va dire l'article. En tout cas, je vois que ce sujet vous intéresse, tant mieux. Alors, lisons le dossier maintenant, parce que ça, c'est juste l'édito. RN avec les patrons, Bardella et Le Pen, cela roucoule douce. C'est un jeu de mots. Longtemps imperméable à la doctrine économique du Rassemblement national, certains dirigeants, ça c'était avant, de grandes entreprises françaises, s'affichent de plus en plus à l'écoute du parti d'extrême droite, espérant l'influencer. La fin d'une mise au banc permise par une laborieuse tentative de ripollinage de son programme. Au mois de janvier, Jean-Dominique Sénard, qui est le président du conseil d'administration de Renault, a été l'un des premiers dirigeants de grande entreprise après le boss de Dassault, Éric Trappier, à faire part publiquement de sa rencontre avec Bardella. Que dit le président du conseil d'administration du constructeur automobile français ? J'ai toujours reçu tous les politiques, y compris lorsque je dirigeais Michelin, explique-t-il à Libé. C'est un dialogue normal, donc ça c'est le discours dont je vous parlais. Sinon, il ne faut pas s'étonner de la défiance, il s'agit d'une obligation démocratique, ce qui ne signifie pas que je partage l'idée de ce monsieur. Donc le patron de Renault, il dit, je reçois les représentants du RN, tout simplement parce que les Français ont voté pour eux, ça ne veut pas dire que je partage leurs idées, mais c'est une exigence démocratique. Plus l'échéance de la présidentielle de 2027 approche, plus les rencontres autrefois bannies, du moins officiellement, s'intensifient. Réunion en petit comité, dîner avec des clubs patronaux, comme celui du 12 avril organisé par Entreprises et Cités entre Marine Le Pen et une douzaine de chefs de grandes entreprises. Là, c'est le fameux dîner. Alors, dîner qui était prévu pour rester secret, il y avait donc patron de Renault, il y avait patron de LVMH, Bernard Arnault, il y avait parmi les principaux, il y avait je crois aussi le patron de Total Energy. Voilà. Et ce dîner devait rester secret, sauf qu'il a été révélé par un magazine que vous connaissez qui s'appelle Nouvel Obs. Et puis il y a eu un déjeuner très officiel, lui, entre Bardella et les membres du bureau exécutif du MEDEF, c'était lundi. C'est la première fois, voilà, une première et une étape supplémentaire dans l'institutionnalisation de l'extrême droite, estime Libération. D'autres rencontres suivront sans doute. Nous n'ostracisons personne. Nous voulons convaincre les politiques, quel que soit leur bord. L'éventuelle venue du RN fera l'objet d'une discussion en comité directeur. À détail, Virginie Calmels, présidente du cercle patronal Croissance Plus. Le discours du patronat, c'est voilà, n'ostracisons personne, on discute avec tout. On joue notre rôle de lobby pour convaincre les partis de prendre des mesures favorables aux entreprises. Quoi. C'est le discours. Si les candidats d'extrême droite sont invités depuis 2012 à participer au débat du MEDEF précédant les différentes élections, le représentant, en l'occurrence Bardella, ont dû attendre l'an dernier pour avoir leur billet aux rencontres du MEDEF de la fin de l'été. C'est la première fois aussi. Donc déjà, il y avait un truc là. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé pour que le RN désormais soit reçu officiellement ? Ils ont 120 députés. Voilà ce qui a changé. Ils sont crédités de plus de 35% au premier tour, explique un membre des milieux patronaux. Voilà ce qui a changé. Ce n'était pas le cas auparavant, le paysage n'était pas aussi éparpillé, il y avait encore une majorité. Entre-temps aussi, le RN a brouillé ses lignes économiques et Bardella a déployé une stratégie de la roucoulade, estime Libé à l'attention du patronat. Et exemple, fin 2023, à la station F, donc c'est un endroit un peu de start-up, détenu par Xavier Niel à Paris, Bardella de point ouvre les guillemets, le drame de la France, c'est qu'on n'ait plus assez de capitaines d'industrie. LVMH est une fierté pour la France. La chasse aux riches n'est pas mon projet, Bardella. Quand vous écoutez ça, vous dites, ok, bon, bah, clairement une politique économique de droite qui arrive, quoi. Un grand patron, c'est quelqu'un qui prend des risques, dit-il encore. Quand une partie du patronat pardon, se défend de dédiaboliser le RN, Laurence Parisot n'a pas le même avis, qui est quand même l'ancienne présidente du MEDEF. Il y a 15 ans, celle qui présidait alors le MEDEF avait publié un livre réquisitoire contre l'extrême droite. Voilà. Si j'ai écrit le livre Un piège bleu marine, c'est justement parce que je voyais le danger à l'époque. Hélas, aujourd'hui, il s'agirait d'écrire un deuxième volume qu'on pourrait intituler Prise au piège. Dans son entourage, on condamne la naïveté du MEDEF d'aujourd'hui. Si le MEDEF veut peser sur la présidentielle, il pèsera beaucoup plus en organisant de grands débats. Alors, je parlais du flou tout à l'heure. Enfin, Libération parlait du flou. Dans le programme économique du RN, c'est développé ici, pour le RN, la fin de la mise au ban s'inscrit après une décennie de tiraillement incessant entre étatisme et libéralisme. 21 et 22 juillet 2017, par exemple, au siège du FN, pendant deux jours, les cadres du parti tentent de comprendre l'échec face à Emmanuel Macron. Une cabale se monte contre Florian Philippot, le représentant de cette ligne sociale étatiste qui a ulcéré les patrons. Par exemple, Florian Philippot, à l'époque, il avait proposé de taxer les entreprises qui embauchent des étrangers. Les partisans d'un virage libéral du parti font fuiter un document dans lequel il assure que le potentiel électoral du RN se situe clairement à droite de l'échiquier. Et ces partisans d'un virage libéral proposent d'insister davantage sur la baisse des charges et des contraintes administratives et d'abandonner la sortie de l'euro. Parce que longtemps, le FN puis le RN a voulu qu'on sorte de l'Union européenne, qu'on sorte de la zone euro, hein, c'est le Frexit. Et ça, c'est terminé, par exemple. Ça, c'est une évolution nette. Donc, quel est aujourd'hui le rapport du RN par rapport à l'Europe ? Est-ce que c'est l'ancienne position sur on sort de l'Europe et on sort de l'euro, ou est-ce que c'est la nouvelle, on reste dedans ? Les Horaces, alors les Horaces, c'est des hauts fonctionnaires, souvent retraités, voilà, et chefs d'entreprise retraités également, qui sont chargés au RN de la rédaction de ce programme libéral. Et un cadre de l'époque du RN déclare, début juin 2021, on se rend compte qu'il n'y a que des mesures pour les riches dans ce programme. Début 2024, Le Pen alerte dans les échos sur le mur de la dette. La petite musique flotte dans les milieux patronaux. Voilà. Le RN s'y prend très mal, avance lentement, mais annonce se préoccuper des comptes publics. En juin, Bardella donne même l'impression d'une conversion au sérieux budgétaire. Avant de promettre tout et n'importe quoi, je dis aux Français, nous allons faire le point sur les dépenses de l'État. Nous vous dirons en transparence ce qu'il en est et nous arbitrerons en fonction. Voilà, c'est un discours qui peut être pris, peut être compris, peut être entendu comme un discours de rigueur budgétaire. Ces pantalonnades ne font pas l'unanimité au sein du RN, pris en tenaille entre son aile plus populiste et son flanc plus business. Jean-Philippe Tanguy, qui est, je crois, un ancien polytechnicien. Non, pardon, c'est François Durvy, c'est n'importe quoi. Jean-Philippe Tanguy et François Durvy, c'est lui. Conseiller spécial de Bardella depuis 3 semaines, se chamaille autour de la rédaction du livret entreprise, carte de visite présentée au patron. Dans ce livret entreprise que le RN distribue au patron, disparaissent des sujets qui grattent comme l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, qui pourrait être une mesure de gauche, hein, ou la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, qui pourrait en être une autre. Voilà. Donc ces mesures disparaissent du livret, mais demeurent dans le programme. Et là, vous allez me dire, désolé, mais c'est un peu flou, quoi. Dans le livret de présentation du programme économique du RN aux entreprises, et supprimer l'annulation de la réforme de l'assurance chômage et la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, mais c'est toujours dans le programme. Donc, en cas d'élection, il se passe quoi? Il se passe quoi? D'autant que Bardella dit, on fera de toute façon un audit, et après l'audit, on vous dira ce qu'on fait. C'est un peu flou, quoi. Continuons. Et ceux qui sont capables de dire quel est le programme économique que mettra en place le RN en cas de victoire, vous êtes très fort. Parce que c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un jugement clinique, c'est illisible. Macron a été élu sans programme et sans faire campagne, me dit Syscom, pourquoi le RN s'embêterait à faire des promesses? Ça, par exemple, c'est de la désinformation, Syscom. Et tu t'en rends pas compte, parce que t'en es forcément persuadé, parce que c'est un discours militant que t'as dû entendre quelque part. Si tu te penches sur la campagne présidentielle de Macron, le problème n'est pas tant les promesses qu'il n'a pas tenues, c'est au contraire les promesses qu'il a tenues. Tout est dans son programme. Les mesures d'aide aux entreprises, le durcissement de la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, tout ce qui lui a été après reproché, tout est écrit dans son programme. Moi, je suis de ceux qui disent que le problème n'est pas tant dans les promesses non tenues des politiques, c'est souvent dans les promesses tenues. Mais sauf que les Français ne lisent pas les programmes. Il faut lire les programmes. Il faut lire les programmes. Macron a été élu sur un programme et il l'a appliqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui a provoqué beaucoup de débats et de polémiques après. Mais il faut lire les programmes, les gars. Après, il y a des trucs qu'il n'a pas tenus. Il y a eu des déclarations sur le fait qu'il n'y aurait plus de SDF en France, ce genre de choses. Il y a toujours des promesses non tenues. Mais quand je lis Macron a été élu sans programme, non. Les principales mesures qui aujourd'hui lui sont reprochées, elles sont dans son programme. Elles sont dans son programme. Macron a surtout été élu contre le RN. Ça, c'est autre chose. Je réponds juste à une personne qui nous dit dans le chat, Macron est élu, alors, a été élu alors qu'il n'avait pas de programme. Et donc, le RN peut faire la même chose. Donc, je ne vous parle pas de pourquoi les gens ont voté pour Macron. Je réponds juste à quelqu'un qui nous dit pourquoi le RN aurait un programme, Macron n'en avait pas. Ce qui est factuellement faux. Le souci dans l'époque qu'on vit, c'est à un moment, des gens, des émetteurs d'informations, affirment des choses. Voilà. Et parce qu'ils l'ont entendu, souvent parce qu'ils en sont convaincus d'ailleurs, sans vérifier, et après ça devient une info. Donc là, par exemple, je débunk cette info, il a été élu avec un programme. Continuons, parce que le sujet n'est pas Macron, le sujet c'est le RN, puisque Macron, lui, ne peut pas être réélu de toute façon en 2027. « Les débats budgétaires à l'Assemblée prolongent cette dialectique, quel est le programme économique du RN, qui voit Tanguy laisser passer, par exemple, en commission le relèvement de la flat tax, avant de se faire taper sur les doigts par Bardella, qui a ordonné à ses troupes de voter contre. Donc qu'est-ce que veut faire le RN sur la flat tax? C'est ce que dit Bardella ou est-ce que c'est ce que fait Tanguy? Idem pour le rétablissement de l'ISF, auquel le RN fait barrage après l'avoir défendu, s'érigeant en rempart pro-business. Le RN à l'Assemblée a fait barrage au rétablissement de l'ISF et pourtant, dans les discours avant, l'avait défendu. Alors, quelle est la position du RN sur, sur le retour de l'ISF? Ils sont pour ou ils sont contre? Ben, ça dépend. Ça dépend de qui vous écoutez. Ça dépend de quand. C'est sur la simplification que Bardella a insisté lundi, en publiant une lettre co-signée avec Marine Le Pen, chargeant Rancourt, Durvy et le député Alexandre Loubet d'aller recenser avec le patronat les normes néfastes à l'activité du pays, en vue d'un grand projet d'ordonnance de simplification. Ça, c'est un truc qu'on pourrait entendre dans un programme de droite, par exemple. Les entrepreneurs ne cachent pas leur scepticisme. Le mythe du grand soir de la simplification, c'est une légende urbaine, résume l'un d'eux. Le repoussoir dans les milieux patronaux, c'est notamment l'arrêt de l'immigration. Parce que ces grandes entreprises, et pas seulement les grandes d'ailleurs, comptent évidemment sur la main-d'œuvre étrangère. D'autres ajoutent le flou autour de la réforme des retraites voulue par le RN. Ah, les retraites maintenant. Quelle est la position du RN sur les retraites? Ils n'ont toujours pas eu entre les mains le projet turbo-libéral que Rancourt promettait dans le Tout Paris économique pour décembre. Certains ressortent en disant « pique-pendre d'un Bardella qui ne sait rien sur rien », rapporte un député du Bloc central qui s'inquiète du fait de son incompétence. Ce type pourrait être manipulé par les technocrates, par les grands patrons, etc. En tout cas, le discours du côté des patrons, c'est on fait du lobbying, on essaie de convaincre le RN de ce qu'il faudrait faire pour la France. Nous ne pouvons pas laisser ces idées qui sont mauvaises pour la France se cristalliser et prendre forme. Voilà. Le RN a 123 députés, on est obligé d'aller les voir, les éduquer. A expliqué par exemple la patronne d'Engie, Catherine McGregor. Éduquer, exactement le même terme qu'employait en janvier un autre PDG du CAC 40, il faut éduquer leurs députés pour qu'ils prennent les mesures les moins connes, c'est la citation que je vous citais tout à l'heure. Donc l'idée c'est, ok, ils vont peut-être être élus, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va changer leur programme économique. Chimère, pense le conseiller de cabinet ministériel, comme il pense que les RN sont cons économiquement, il croit qu'ils peuvent les convaincre et faire passer des trucs. Je ne vous lis pas tout le dossier, si ça vous intéresse vraiment, vous pourrez lire Libération, il faut soutenir la presse, il faut la lire, sinon elle va disparaître. Alors, parmi les grands patrons qui ont pris la parole officiellement pour dénoncer ce qui vient de se passer, le fait que désormais les représentants du RN étaient reçus officiellement, il y en a un seul. Hein, c'est le patron de la Maif, l'assureur mutualiste, qui a pris la parole officiellement pour dire que c'était une très mauvaise stratégie. Il s'appelle Yves Pélissier. Hein. Libération souligne par ailleurs que le déjeuner du MEDEF, le fameux déjeuner, n'a pas affiché complet, rassemblant plus de la moitié des 15 membres de cette instance, mais que certains ont pris soin de marquer leur désaccord en signalant leur absence. Libération cite un industriel membre du MEDEF et de l'Association française des entreprises privées qui ne cache pas son scepticisme quant à cette stratégie, cette capacité du patronat français à éduquer le RN. Et lui, il dit, le déjeuner au MEDEF est une opération de communication qui bénéficie au RN. Les dirigeants d'entreprise n'en tireront aucun bénéfice. Ce parti a une doctrine économique plus arrêtée que l'on ne croit et elle n'est pas pro-entreprise. Le patron d'un grand groupe de santé lâche, il est trop tard. Si le RN arrive au pouvoir, il aura une telle marge de manœuvre qu'il sera alors difficile de faire entendre notre voix. Un autre, aux manettes d'une multinationale du CAC 40, s'interroge « Pourquoi leur parler ?» Beaucoup de mes confrères veulent influencer leur programme économique, donc on voit que les patrons entre eux ne sont pas d'accord sur le sujet. C'est intéressant. « Je ne suis pas ce niveau de naïveté, dit-il. » Mais, ça c'est très très drôle. Ça, c'est un argument que je trouve intéressant. Mais je n'ai pas vraiment d'inquiétude, dit ce patron qui, lui, estime que ça ne sert à rien de discuter avec le RN. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude puisque les caisses sont vides et ils ont zéro marge de manœuvre budgétaire. Sous-entendu, le cadre budgétaire est tellement contraint en France, pour quel que soit le parti qui arrive au pouvoir en 2027, que de toute façon, il ne pourra rien faire. À moins de laisser exploser le déficit et prendre des mesures démagogiques qui pourraient satisfaire les urnes pendant un certain temps, mais provoquer des conséquences assez surréalistes, quoi. Alors, Libération rappelle que les patrons allemands, il y a un petit tacle de Libération qui arrive qui est assez rigolo, les patrons allemands, eux, ont fait un choix radicalement différent en mai 2024 lors des européennes, alors que l'extrême droite gagnait du terrain. Une trentaine de grandes entreprises, dont BASF, Siemens, BMW ou encore la Deutsche Bank, ont posté une tribune sur leurs réseaux sociaux. Son titre, « Debout pour nos valeurs ». Le propos de cette prise de position des grands patrons allemands, l'exclusion, l'extrémisme, le populisme sont des menaces pour l'attractivité de l'Allemagne et notre prospérité. Oui, c'est une autre question d'ailleurs. Quid de l'attractivité de la France pour les capitaux, notamment étrangers, au lendemain d'une élection du RN en France, quoi. Quel que soit le choix des Français, c'est pas eux qui décideront effectivement des investissements du capital étranger dans notre pays. Ce seront les fonds de pension, ce seront ces entreprises. Je ferme la parenthèse. L'initiative, au départ destinée à 1,7 million de salariés des entreprises signataires allemandes, a rapidement connu un écho national en affirmant « Les recherches indiquent que le populisme et l'extrémisme entraînent une diminution de la capacité d'innovation, une baisse de la production économique et par conséquent une réduction des richesses. » Cette fois, écrit Libé pour conclure ce papier, « Le patronat français ne s'est pas extasié devant le modèle allemand. » Petit tacle de Libé qui rappelle que souvent en France, dans les milieux libéraux, on cite le modèle allemand, qui est un peu mis à mal en ce moment parce que l'industrie allemande souffre beaucoup. Mais que là, avec cette tribune des patrons allemands contre l'extrême droite, il n'y a pas eu de modèle allemand. Je vous lis. Deutsche Qualität, exactement. Mais merci de la qualité du débat que je vois dans le chat sur ce sujet. 20 cm, c'est beaucoup. Écrit dans le chat, normal que les partisans du RN soient divisés sur le plan économique, c'est pas du tout ce qui les rassemble. Ça n'est pas faux. Ça n'est pas effectivement le cœur du programme du RN, historiquement, n'est pas un programme économique. Vous savez que ce qui lie le RN et hier le FN, c'est d'abord la lutte contre l'immigration. C'est au cœur du logiciel, c'est pas faux. Je suis en train de remonter dans le chat. Hein. Merci Monomarque. Monomarque, pardon. Merci Armel Rose. Merci Flo's Home. Merci Raven Club. Merci à ceux que je n'ai pas remerciés pour les subs depuis tout à l'heure. Dans leur meeting, ils parlent au peuple, estime Lexi Bird, et dans les faits, ils parlent au patronat et aux différents lobbies. Je remonte le chat. Ne jamais oublier que le premier but d'un parti, c'est d'être élu. Chouba, je crois que tu as tout résumé. Je ne l'aurais pas dit mieux que toi. Basile Roy, dans le chat, à l'instant, un discours social populiste pour se faire élire et une politique économique de droite main dans la main avec la bourgeoisie une fois élue. Qui doute du scénario ? Salut Milan, on accueille Milan 390D, dont c'est le premier message dans le chat. Merci d'être avec nous, merci à toi. À suivre, On va rentrer dans une séquence, notamment à partir de septembre sur 2027, qui va être passionnante, évidemment, que dans cette revue de presse, et globalement, plus globalement sur cette chaîne, on parlera beaucoup de tout ça. Sans transition aucune, hein, évidemment, le sujet n'a rien à voir, on passe du RN au racisme en France. Parfois, je passe du coq à l'âne, comme ça, je fais des transitions un peu bizarres. Quel est le lien entre les deux, je ne sais pas. Un thème que j'ai intitulé... Oui, c'est un peu une pirouette, je sais. Bizarre. Le quartier face aux racistes. Et j'ai pas dit au racisme, aux racistes, parce qu'on parle d'un monsieur. Enquête. ne refaites pas cette cascade, cette pirouette à la maison, c'est extrêmement dangereux. Hein. Il faut beaucoup d'entraînement. Enquête de Mediapart. Alors, cette histoire est folle, me dit Pissagno. Oui, vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours dans l'actualité d'un monsieur dans un quartier populaire qui aurait tiré en direction d'enfants. Ça n'était pas une rumeur, ça n'était pas une fake news. Voilà. C'est une vraie info. Et Mediapart, qui est un média d'enquête, hein, a consacré du temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on a un papier qui fait, regardez, 5 pages. Donc avec des infos. Hop, vous ne l'avez pas, je vous montre. Qui fait 5 pages. Dans quelle ville? Je vais vous dire. C'est un petit quartier. Voici les infos, puis on va en parler ensemble. Mediapart qui, comme souvent, a fait un gros boulot. Biz 18, comment vas-tu? Mediapart est-il un média d'opinion, tout comme CNews? C'est à toi de le dire, c'est pas à moi, c'est pas à eux. C'est à chaque citoyen d'estimer si un média est un média d'opinion ou un média neutre. Mediapart ne se présente pas comme un média engagé. Mediapart se présente comme un média d'enquête. Voilà. Si vous lisez Mediapart comme je le fais tous les jours, vous allez sans doute estimer que Mediapart a une ligne éditoriale, des valeurs. Ouais. Mais c'est à vous c'est à vous de le déterminer, ça. Voilà. Vous connaissez ma théorie là-dessus. Tout média a des biais, conscients ou inconscients, et aucun média n'est neutre. Il est plein de biais, voilà, reconnus ou pas, assumés ou pas. Caché ou pas, par exemple le média Frontière, qui de la vie générale est un média d'extrême droite, on s'est penché sur leur sujet il n'y a pas longtemps, son dirigeant a été auditionné par le Sénat dans une commission il y a quelques jours, là, et lui dit par exemple, Frontière n'est pas un média d'extrême droite. Frontière est un média d'enquête. Bon, c'est à vous de vous faire votre avis. Ou pas, vous n'êtes pas obligé de lire Frontière non plus, mais... Donc, je vous lis cette enquête de Mediapart, maintenant j'ai répondu à cette question. Il crie tous les jours des insultes contre les Noirs et les Arabes, c'est le titre, à Espaly-Saint-Marcel, un quartier, laissé seul face au racisme. Et je dirais même face aux racistes, parce que c'est un monsieur en fait. Le petit quartier populaire, où est-ce que ça se passe, de l'Arbousais, dans la banlieue de Puy-en-Velay, donc c'est en Haute-Loire, reste scandalisé après qu'un retraité a ouvert le feu. Dimanche, en direction d'enfants et proféré à leur égard des insultes racistes. L'homme n'en est pas à son coup d'essai, comme en témoigne une vidéo et les images récupérées par Mediapart. À Espaly, les enfants ne chassent pas les œufs en chocolat, ils se font chasser parce qu'ils sont chocolat. Le tract où figure cette punchline a été rédigé par des habitants du quartier populaire de l'Arbousset à Espaly-Saint-Marcel, en Haute-Loire, 3500 habitants, car l'indignation ne passe pas plusieurs jours après qu'un résident a, selon des témoignages, ouvert le feu en direction d'enfants et proféré à leur égard des insultes racistes, information révélée à l'origine par le journal local régional Le Progrès. Les faits remontent au 19 avril. Vers 15h, Michel V, retraité de 64 ans, s'exaspère du bruit causé par un groupe d'une dizaine d'enfants, pardon, dont le plus âgé n'a pas 12 ans, qui joue au football sur une placette proche de ses fenêtres. Excédé, il prend sa carabine à plomb et menace les gamins. Il nous a menacés en disant qu'il allait nous tirer avec son flingue. Il a dit qu'il détestait chacun des Africains du groupe. Il a désigné Virginie en particulier en l'appelant la très très noire. Et puis il nous a tiré dessus, témoigne Jacob, un des enfants. Je n'ai pas vu le coup de feu, mais je l'ai entendu. Et j'ai entendu les cris de Michel, confirme sa mère. Marie, qui vit dans le même bâtiment que le retraité et chez qui les enfants ont trouvé refuge. Mon neveu Nassim, alors les prénoms des personnes ont été changés, 10 ans, a senti le plomb lui effleurer le mollet, indique pour sa part Jamila El Awazi, une habitante, exhibant un rapport médical qui constate un syndrome anxieux important chez l'enfant. Mon gamin est choqué, traumatisé, affirme Noureddin Esbiti, le père de Nassim. Le soir, il n'a pas voulu manger. Il a fait des cauchemars pendant la nuit, il ne veut plus venir dans le quartier, il va falloir qu'on lui trouve une nouvelle école. Poursuit le chauffeur routier qui a porté plainte. C'est bien de porter plainte aussi en justice. Il ne faut pas se laisser faire. Interrogé par Mediapart après sa sortie de garde à vue, donc l'homme a été placé en garde à vue. Salut, hyper boy, nice boy. L'auteur du coup de feu plaide l'accident. Comme son avocate l'a mentionné auprès du Progrès. J'ai dit plein de fois aux enfants de ne pas envoyer les ballons sur les carreaux. À force d'être harcelé, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai voulu leur faire peur. J'ai pété un câble et j'ai tiré en l'air, mais il n'y avait pas de plomb dans la carabine. C'était une bêtise parce que je n'avais pas mis la sécurité, affirme le sexagénaire. Confronté à des photos circulant dans la cité qui montrent l'homme l'arme à la main ou pointé à hauteur d'homme, Michel V affirme qu'elles sont antérieures du jour de l'incident. Ou le fruit d'un photomontage. Alors, Mediapart s'est procuré ces photos. Voici Michel V. Voilà. Donc là, une photo. Il a la carabine à la main. On voit un enfant qui est littéralement à 2 mètres de lui. Hein? Une autre ici. Voilà. Il se promène littéralement dans le quartier avec son fusil à la main. Voilà. Et là, vous l'avez, l'arme épaulée en direction de... Alors, il dit qu'il s'entraîne au tir aussi. Il dit qu'il s'entraîne au tir. Peut-être qu'il s'entraîne là, mais manifestement, il n'est pas sur un domaine privé. Il est dans une cour, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. Alors, il dit deux choses. Il dit... Ah, mais c'était un autre jour. Ou alors, c'est fait avec de l'IA. Voilà. L'ancien travailleur du bâtiment, résident dans le quartier depuis 6 ans, récuse également l'accusation de racisme. Il dit qu'il n'est pas raciste et qu'il ne tient pas à propos raciste. Une intervention de son épouse présente lors de l'entretien jette cependant le doute sur ses déclarations. Que dit son épouse ? C'est la guerre. Madame, il ne faut pas dire ça parce que votre mari est accusé de racisme. Là, vous ne l'aidez pas. C'est la guerre. C'est les Français qui devraient être dehors et les Noirs et les Arabes qui devraient prendre les logements. Lâche Isabelle V, c'est l'épouse. Oui, mais madame, vous ne l'aidez pas là parce que votre mari dit qu'il n'est pas raciste. Ou alors Isabelle, elle est raciste, mais pas... comment il s'appelle le monsieur ? Pas Michel. Là, je pense qu'il faut que l'avocat parle à Isabelle, par contre, parce que là, ça ne l'aide pas du tout. L'homme a passé la nuit de dimanche à lundi en garde à vue. Il a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel, donc il est convoqué au tribunal, hein, pour des faits de violence avec arme, avec une audience fixée en juillet 2026. Donc il y a procès. Il y a procès. Le procureur de la République n'a pas reconnu la circonstance aggravante du caractère raciste de l'agression. Alors c'est ce qui met un petit peu colère les habitants parce que dans l'enquête, le caractère raciste de l'agression n'est pas reconnu. Aucun tir en direction des personnes présentes n'a été constaté, aucune personne n'a été blessée, ni le plaignant, ni ses représentants légaux, ni les témoins auditionnés n'ont fait état de propos à caractère raciste, précise-t-il dans un communiqué. Alors, c'est là où les habitants ne sont pas d'accord. Hein. Le problème, selon plusieurs habitants, c'est que les policiers se sont contentés initialement d'enregistrer les dépositions de Nassim apeuré, donc l'enfant, qui aurait été frôlé par un plomb, et de son père, qui n'était pas présent sur les lieux au moment des faits. Au commissariat, ils n'ont pas voulu écouter les témoins. Ils étaient débordés, dit une maman. Mais nous avons monté un groupe WhatsApp pour rassembler les témoins, on ne va pas se laisser faire. Je l'ai tout de suite dit aux policiers, les gamins aussi, avec les vidéos sur leur téléphone, regardez, ils nous traitent de noirs. Mais les agents n'ont pas enregistré mon témoignage, indique Marie. Marie, je crois que c'est la maman de l'enfant, je crois. Non. Marie, on l'a dit au détour, je vais toujours être précis dans les infos, parce que sinon après, c'est notre... Après, c'est la chien en lit. Marie. C'est la mère de Jacob. C'est un autre enfant qui a témoigné aussi. Et Marie prévoyait de se rendre au commissariat pour déposer plainte. Sur France 3, qui confirme une information d'ici Saint-Étienne-Loire, le parquet a annoncé ouvrir une seconde procédure pour injure publique cette fois, en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Donc il y a une deuxième enquête qui est en cours. Toujours selon France 3, les associations SOS Racisme et le MRAP ont adressé un signalement au parquet. Car les coups de colère au relent raciste de l'auteur du coup de feu sont de notoriété publique dans le quartier. C'est-à-dire que c'est pas nouveau, quoi. Il crie tous les jours des insultes racistes contre les Noirs et les Arabes. Il fait peur aux enfants, affirme une jeune mère de famille. Une fois où ma femme rentrait à la maison, il a eu des propos racistes. Il lui a dit qu'elle n'était pas chez elle ici. Il n'aime pas les Noirs, commente Sébastien, un chariste de 35 ans, venu participer mardi soir à une réunion de quartier en soutien aux familles des enfants menacés. Chacun y va de son anecdote. Il agresse des gens pour rien du tout. Il a failli me taper plusieurs fois avec un bâton parce qu'on n'a pas le droit de faire du bruit devant chez lui. On est tous passés par là, affirme Wassima, qui est la sœur de Nassim, qui est lycéenne. Sa tante, Jamila El-Awazi, évoque le départ forcé d'une amie syrienne voilée pour qui la vie dans le quartier était devenue invivable en raison de ses confrontations avec le retraité. Une vidéo dont Mediapart a obtenu une copie montre Michel V revendiquant sans ambiguïté son racisme lors d'une altercation avec une habitante noire. Donc là, j'ai une copie d'écran, donc je peux vous la montrer vite fait si vous voulez. On entend pas très très bien, mais il semble qu'il revendique son racisme. Alors, je vous demande de prendre cette vidéo avec prudence parce que elle n'a pas été authentifiée en tant que telle, quoi. Mais elle est postée par Mediapart. Je l'ai ici. Ouais, on entend, tu sais que je suis. On entendrait, je suis pas sûr. Tu sais que je suis raciste et j'en suis fier. Voilà. Bon, on ne comprend pas très très bien. Donc voilà, mais c'est la vidéo dont parle Mediapart. Je continue. Moi, je n'en peux plus. Tous les jours, il me traite de noir, de babouin. Mon gamin n'ose pas rentrer seul par la porte. Il me demande de descendre pour venir le chercher. Se désespère Marie, qui dit envisager de rentrer chez elle à Mayotte. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 2 semaines plus tôt quand le retraité a pris à partie son fils autiste parce qu'il avait dispersé les papiers gras d'une poubelle. J'ai d'abord entendu crier « tu peux pas arrêter, espèce de petit mongol ». Et puis je l'ai vu jeter une barre métallique dans sa direction. Heureusement, il ne l'a pas touchée. Michel V, la parole à Michel V, admet qu'il a eu une altercation avec Marie en lien avec son enfant autiste, mais dément toute tentative de violence physique. « Je n'ai jamais porté la main sur un enfant ou sur une femme. Je ne suis pas violent », assure-t-il. De même, il dénonce la vidéo où il affiche sa fierté d'être raciste comme un montage, probablement réalisé avec l'aide de l'IA. C'est fou, hein ? C'est fou, l'IA, hein ? Le seul point de convergence entre la famille V et son voisinage semble être leur commun désarroi face à l'inaction de la mairie et du bailleur social du quartier de l'Arbousset. Dimanche, j'ai contacté la maire. Je lui ai envoyé des photos. On m'a dit que l'élu attendait la fin de l'investigation pour s'exprimer, déplore Jamila El-Azouzi. Aucun éducateur n'est venu parler aux petites personnes, donc les habitants qui s'estiment un peu abandonnés, quoi. La réponse politique est indigne. Qu'elle n'ait pas trouvé 5 minutes dans son planning pour rencontrer les gens est honteux, s'emporte Saloua El-Azouzi, une autre tante de Nassim, qui est conseillère municipale d'opposition au Puy-en-Velay. C'est ce qui est le plus douloureux, c'est l'absence de médiation de la mairie et du bailleur social. Sollicitées par Mediapart, les deux institutions n'ont pas souhaité s'exprimer. Fin du papier qui est assez étonnante. Fin du papier qui est assez étonnante, je vous préviens. Les gens qui sont debout, asseyez-vous quand même. Ça peut tomber de sa chaise. Michel V reproche à l'OPAC, donc le logeur social, son manque d'empressement à traiter sa demande de relogement, parce que manifestement il demande d'être relogé depuis un certain temps. Peut-être dans un quartier avec moins de... Je ne sais pas comment M. Michel V a formulé sa demande. Il est cependant interrompu dans sa diatribe par un appel téléphonique. Le bailleur social lui annonce avoir trouvé une solution de relogement temporaire disponible dès le lendemain. C'est malheureux qu'il en ait fallu en arriver là pour que ça bouge, conclut l'homme à la carabine. Donc, le mec, on lui a trouvé un nouveau logement, quoi. C'est la chute du papier. Espérons pour les futurs voisins qu'il n'emporte pas sa carabine. Voilà, c'est... Bon, Mediapart est un média assez rigoureux dans sa façon de traiter l'information, donc globalement, je pense que l'approche de ce papier l'est sûrement aussi. Hein. Même si M. Michel V lui dit que tout ça, c'est de l'IA. Voilà. Histoire assez étonnante. Alors, c'est une histoire très précise dans un lieu avec des habitants, une personne. Voilà. Donc, c'est un fragment d'actu, mais je trouve que c'est intéressant d'aller au cœur d'une actualité comme ça, avec une enquête comme celle de Mediapart. Je vous lis et on enchaîne. Sachant qu'a priori, il y a un procès qui arrive en juillet. Après, la justice, elle a besoin de preuves formelles, hein, toujours pareil. De preuves formelles, donc là... Y a, par exemple, là, d'après ce que je comprends, il n'y a pas de balle qui a été retrouvée. Il n'y a pas de vidéo qui montre un tir, par exemple. Il n'y a pas de blessure non plus. Donc, vous savez ce que c'est. Donc, il faudra voir ce qui se passe... lors du procès. Salut la petite potière, ça va bien? Merci d'être là. Voilà. Bon, bravo à Mediapart pour cette enquête. Parce que... Oh, merci beaucoup, Mujirawa. Merci, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe de Café ce documentaire. C'était un super, super boulot. Je me permets, j'arrête l'info. Enfin, j'arrête l'info pour émettre un jugement personnel. Je me permets de former le vœu que le changement de climat dans notre pays et la libération d'une certaine parole ne va pas amener à la multiplication de ce genre d'événements. Je forme ce vœu très fort pour notre pays. Quoi. On a l'occasion d'en reparler. Alors, je vous ai dit qu'on était chargé ce matin. Il y a des infos de fou. J'ai une très belle tasse, le Gorafi. De quoi va vivre le Gorafi? De quoi va vivre le Gorafi désormais quand l'actualité elle-même est aussi folle? Bon, là, on n'a pas parlé de Trump aujourd'hui. Mais entre les déclarations de Trump, entre l'actualité internationale, entre l'actualité en France, entre l'histoire qu'on vient de raconter et celle qui arrive là, hein, les Jeux Olympiques des dopés, c'est comme ça que j'ai appelé, mais de quoi va pouvoir se nourrir le Gorafi, quoi. Il suffit d'ouvrir les journaux classiques, vous avez la même cam, voire plus folle. Là, je vais vous parler des JO des dopés. Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, c'est moi qui l'ai appelé. Ainsi, je me suis permis, parce que c'est de ça dont il s'agit, je vous l'ai mis, les JO des dopés, c'est parti, cet article dans Le Monde. C'est parti. Dans les coulisses des JO de l'humain amélioré, eux ils disent amélioré, financés par des figures libertariennes férues de transhumanisme, les Enhanced Games, qui se tiendront à Las Vegas le 24 mai, encouragent l'usage de produits dopants sous supervision... Je vous le mets. Médical. En gros, les produits interdits, considérés comme dopants dans les compétitions sportives internationales, là, sont autorisés. Mais sous surveillance médicale, donc tout va bien. Au-delà de l'expérimentation athlétique, il n'y a rien qui va, vous allez voir, le truc est surréaliste. Ces rencontres sportives visent à redéfinir les limites du corps humain et vous allez voir aussi dans ce papier qu'il y a une arrière-pensée mercantile et commerciale derrière tout ça. James Magnussen a retrouvé la ligne et l'allure qui lui valait le surnom de missile dans les années 2010 au temps de sa splendeur olympique. Hein? L'Australien de 35 ans là il est en entraînement, début février à Abu Dhabi. On va rappeler médaillé d'argent du 100 mètres nage libre au JO de Londres 2012. Il y a d'anciennes gloires sportives qui vont participer à ce truc-là. Double champion du monde de la distance, donc c'est un ancien vrai champion. Promène nonchalamment son 1m98 au bord de la piscine privatisée d'un complexe hôtelier de luxe. On est donc à Abu Dhabi. Malgré les tensions géopolitiques dans la région, le colosse continue de préparer paisiblement les Enhanced Games, les Jeux augmentés, au sein d'un groupe d'une quarantaine d'athlètes d'élite, nageurs, sprinteurs, haltérophiles, âgés de 25 à 35 ans, dans les Émirats, en bordure du golfe arabo-persique. Cette compétition inédite, qui doit se tenir le 24 mai prochain à Las Vegas, encourage la performance améliorée grâce aux substances. Alexandra, la flèche, elle est descendue. Il faut que tu actualises le stream, les JO dédopés. On est dessus, là. Grâce aux substances chimiques et médicamenteuses interdites dans le sport traditionnel, ce qu'on appelle du dopage. À la clé, une dotation totale de 25 millions de dollars, donc il y a de l'argent, qui a alléché, par exemple, le Britannique Benjamin Proud, vice-champion olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux de Paris 2024, donc c'est des champions très récents. Le sprinteur américain Fred Carley, argent aux 100 mètres des JO de Tokyo 2021, puis bronze à Paris 2024, ou encore des retraités du prestigieux championnat universitaire américain. C'est incroyable. Donc voilà, vous avez certains grands patrons. Le lapsus. Grands champions. Tous ont troqué leurs uniformes nationaux pour un maillot noir et blanc pour Enhanced Games, donc EG, les lettres EG, et élu domicile durant 16 semaines dans ce discret camp d'entraînement. Donc si je comprends bien, c'est où alors ? Eux aussi, ils sont à... Dans les Émirats ? Ok, j'ai l'impression. Où ils alternent séances intensives, méditation guidée, récupération, entre bains de mer, soleil et soins haut de gamme. Routine bientôt complétée par un protocole médical individualisé de 8 à 12 semaines visant à les transformer en super athlètes. Les petites picouzes. De quel produit parlons-nous ? Testostérone de synthèse. Stéroïdes anabolisants. EPO. Hormones de croissance, peptides, modafinil, tous ces produits bannis par l'Agence mondiale antidopage, mais approuvés par l'autorité sanitaire américaine, donc la Food and Drug Administration, sont autorisés aux Enhanced Games sous strict encadrement médical. Tout le monde s'est un jour demandé, quelle est la philosophie de ce projet ? Tout le monde s'est un jour demandé, plus ou moins sérieusement, à quoi ressemblerait le sport si les athlètes pouvaient prendre tous les produits qu'ils voulaient, explique James Magnussen. Alors moi je me demandais pas, mais lui oui. Voilà, incroyable. Donc lui il a pris sa retraite sportive en 2019. Il faisait des trucs dans les médias, mais il continuait à s'entretenir physiquement. Et puis en février 2024, il a vu ce projet naître. Outre de généreuses rétributions mensuelles, donc les sportifs qui participent à ce programme manifestement ont un petit salaire mensuel qui va bien. Et un suivi. Ah ouais, donc il y a rétribution mensuelle, prise en charge intégrale de la préparation, suivi médical sur 5 ans, et l'événement offre 1 million de dollars à quiconque améliorera le record du monde du 50 mètres nage libre et 100 mètres en athlétisme. Alors qui finance ça ? Financé par des figures libertariennes de la tech, dont le milliardaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal, premier investisseur extérieur de Facebook, et argentier des campagnes présidentielles de Donald Trump. Donc ça, il y a Peter Thiel qui met des sous. L'allemand Christian Angermayer, qui mise sur les sciences de la vie, la fintech, l'intelligence artificielle, les produits psychédéliques et les crypto-monnaies. Donald Trump Jr. Pourquoi c'est toujours les mêmes ? Pourquoi c'est toujours... Alors Donald Trump Jr., c'est un des fils de Donald Trump. Pourquoi c'est toujours les mêmes ? Attends.
Mais non ! Mais hasard de dingue !
Donc, par le biais du fonds d'investissement 1789 Capital, un fonds d'investissement, on le rappelle, dévolu aux entreprises anti-woke, les Enhanced Games s'annoncent comme le laboratoire grandeur nature du transhumanisme. Ces disrupteurs, ainsi qu'ils se présentent, n'envisagent pas le vieillissement, la dégénérescence physiologique comme une fatalité. comme un projet philosophique derrière tout ça, mais comme une pathologie que la médecine de la performance peut corriger. Leur objectif, développer un marché. Alors là, c'est intéressant. Parce qu'en fait, derrière ce truc-là, il y a des arrière-pensées mercantiles et commerciales, parce que ces gars-là pensent qu'il y a un marché derrière. Ils ne le font pas juste pour sur un délire entre potes, là. C'est, ils pensent qu'il y a un marché derrière. Leur objectif, développer un marché global de l'humain augmenté à travers la vente au public. C'est pour vous, cher public. Sous forme standardisée et prête à l'emploi, de protocoles calibrés et de produits testés en format micro-dosé par Magnussen et ses homologues. Les trucs que les mecs là vont tester, demain, on vous les vend. On va vous les vendre. Et ouais. Pour les athlètes des Enhanced Games, pas d'utilisation sauvage. Avant de se voir poser un protocole, il passe au crible de bilan cardiaque, hormonaux, sanguin, urinaire. Ce matin, j'ai fait une prise de sang. Vous ne savez pas si je ne vais pas me remettre à la course à pied dans quelques jours, quelques semaines, chargé comme une mule. Comme par hasard, j'ai fait une prise de sang ce matin. Comme par hasard. Peut-être que moi aussi, j'ai participé à ce truc. Donc hormonaux, sanguin, urinaire, examen génétique, imagerie poussée, évaluation des fonctions cognitives, le tout supervisé par une équipe pluridisciplinaire. Voilà. Le compte à rebours est lancé avant le rendez-vous de Las Vegas, donc c'est le mois prochain. C'est une halle éphémère de 2500 places à Las Vegas qui va accueillir la compétition. 3 heures de sport spectacle intense. Je vais vous le streamer moi ce truc là. Hein. Rythmé par une animation musicale, des interactions avec le public à la manière des shows XXL américaines, du 100 mètres en athlétisme sur une ligne droite à 6 couloirs seulement, au sprint dans les 4 nages avec un bassin olympique à 4 lignes d'eau, en passant par l'épaulé jeté. Je regarde un mail urgent de taf. Ah, est-ce que je vais aller à Biarritz? Je vais aller à Biarritz en juin pour un taf. Super. Ok. Donc le show quoi. Biarritz, je suis jamais allé à Biarritz de ma vie. Enfin, j'y vais juste pour un taf, c'est dommage. Toujours rêvé de découvrir Biarritz. En passant par l'épaulé jeté, l'arraché, le soulevé de terre pour l'haltérophilie, chaque épreuve sera dotée de 500 000 dollars. Chaque épreuve, 500 000 dollars. Dont 250 000 aux vainqueurs. En cas de record du monde, la dotation sera doublée avec cette prime qui atteindra le million de dollars si quelqu'un bat un record du monde pour le 50 mètres nage libre et le 100 mètres sprint. Incroyable. Là, vous avez l'essentiel de l'actu, mais le papier fait 2 pages. Je vais essayer de vous en lire les passages les plus intéressants. Que disent les instances sportives internationales? Que dit l'Agence mondiale antidopage de ce truc? Ils condamnent unanimement et qualifient de jeu des dopés. Ou de jeux du cirque. Ils ont promis aussi une suspension à vie à tous les participants dans les épreuves classiques. Alors c'est très très drôle parce que vous avez notamment le nageur James Magnussen, le nageur australien qui témoigne de son protocole. Parce que la question c'est est-ce qu'ils vont battre des records ou pas? Parce que si chargés comme des mules, ils battent pas des records, c'est vrai que tout le monde va se foutre de leur gueule. Donc il s'est installé à l'automne 2024 pour 5 mois aux États-Unis avec un protocole chimique individualisé. Donc là il raconte. Décrit dans le documentaire, dans un documentaire, les débuts sont spectaculaires. Avec le protocole, j'ai pris 5 kilos de masse musculaire maigre dès la première semaine. En salle de musculation, il soulève jusqu'à 230 kilos en bondissant comme si de rien n'était. Mais les chronos vont se stabiliser, puis s'inverser. Voilà. Sa masse musculaire excessive altère sa flottabilité et ça glisse. Le mec est trop lourd, il coule. Il va au fond du bassin. Cet article est une masterclass. Il met 30 minutes à enfiler sa combinaison. Il n'arrive plus à rentrer dans sa combi. Il doit recourir à l'aide de 4 personnes pour mettre sa combi. Tandis que ses temps chutent. Bah oui, mais il est au fond du bassin, donc forcément il va moins vite. En deçà de ceux de l'époque. En deçà de ceux de l'époque où il ne recourait à aucune aide chimique. Hmm. S'il admet une erreur sur la durée et le dosage de son protocole, Magnussen refuse de parler d'échec. Hein, il dit que c'est pas un échec. Ça n'a pas marché, mais c'est pas un échec. Bon, je vous lis pas tout le papier, hein, parce que on va manquer de temps, mais ça fait 2 pages dans Le Monde. Cet article qui dit s'il tombe sur le dos, il peut être con, il peut rester bloqué et mourir de mourir de soif. Là, vous avez 2 pages sur l'histoire. Hein. Il y a un Français qui est dans la compétition là. Le Monde en parle. Je vous lis pas tout. Je vous donne l'essentiel. Ouais, les participants parlent beaucoup de voilà que financièrement c'est hyper intéressant. De toute façon, ils sont à la retraite. Ils s'en foutent d'être suspendus pour les autres compètes. Je lis en diagonale. Hein. Il y a quelques femmes, mais elles sont moins nombreuses manifestement. Pardon, que là, si je vous lis les 2 pages, on y est encore à 14 h. Je trouve que l'essentiel des infos sont sur la première page. Aucune chaîne de télé ne s'est positionnée pour retransmettre l'événement. Donc les médias sont valides pas trop. Et la jauge de 2500 places de personnes sur place ne permettra guère que d'inviter des proches, des compétiteurs, des partenaires, des VIP. Voilà. Par contre, ah! Waouh! Ce sera diffusé gratuitement et en direct du coup sur YouTube. Ok, bah vous pourrez regarder ça sur YouTube. L'organisateur dit, j'envisage que ces jeux deviennent l'un des plus grands événements sportifs de la planète au même niveau que le Super Bowl. Bon, rendez-vous dans 1 mois à Las Vegas. Waouh, c'est quoi? C'est un truc de. C'est un prompteur, c'est quoi ça? C'est la conférence de presse de ces jeux dédopés là? We've got events, we've got athletes, and now we've got the science. Wow! Incroyable. Bon, et ce qui est fou, c'est que derrière, il y a un monde où bientôt, en pharmacie, en supermarché, je sais pas quoi, vous aurez des petits packages perso inspirés de ce truc à Las Vegas, quoi. Je sais pas. Bon, je pense que dans un pays comme la France, tout ça est extrêmement encadré, bien sûr. Ce serait très très drôle que, enfin très drôle, je suis pas sûr que ce soit le mot, mais que dans quelques mois, on se penche sur un papier qui nous dise que y a des firmes pharmaceutiques qui essayent de mettre ça en vente en France et que les autorités sanitaires s'y opposent, quoi. Ce serait très intéressant. La dystopie cyberpunk se réalise. Oui, vous avez été plusieurs à parler de cyberpunk, c'est oui. L'homme augmenté un peu, oui. Il y a un peu de ça, ouais. Dope-toi comme ton athlète préféré. Le marketing va être fou, écrit Alerto Goutard dans le chat. Ça donne quoi la suite de la commission d'enquête de l'Assemblée? Bon, on va en parler avec Patrick Sébastien tout à l'heure. Je crois que les membres de la commission sur de l'audiovisuel public ont jusqu'à lundi pour prendre connaissance du rapport écrit par monsieur à l'oncle, le rapporteur, sans pouvoir l'emmener chez eux. Ils ont juste le droit de le lire. Voilà. Et donc, ils ont jusqu'à lundi pour le lire, le consulter, puis décider de le voter ou pas. Bon, moi, je préchote que ça va voter. Et après, du coup, on saura ce qu'il y a dans le rapport. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. Vite fait, hein. C'est bon. Monsieur a eu son quart d'heure de gloire. On peut revenir à des infos sérieuses maintenant. Et on y a, je trouve qu'on y a consacré déjà beaucoup d'attention, quoi. On peut lire, nous? Une fois qu'il sera voté, oui. Une fois qu'il sera voté, oui. Tout à fait. Tu penses que ça va être voté? Je suis quasiment sûr qu'il va être voté, ouais. En fait, les autres membres de la commission sont coincés. Sugar me dit d'après les premières lectures, il y a des attaques personnelles et presque diffamatoires dedans. Ah, alors ça, c'est problématique. Alors, moi, avant de lire Sugar, j'allais vous dire, les membres de la commission sont coincés. C'est-à-dire que s'ils si trouvent que le rapport, c'est un truc de dingo et qu'ils ne le votent pas, le rapporteur va dire, vous voyez que j'ai raison, vous voyez que j'ai mis le doigt sur un truc énorme, on me censure. Et donc là, il est gagnant. Et du coup, c'est très compliqué pour eux de ne pas le voter, même si le truc est nul, parce que il y aura cette accusation que vous verrez sur tous les sites que vous connaissez bien, c'est toujours les mêmes, hein, de la part de certains créateurs de contenu sur YouTube, médias d'une certaine galaxie. Vous aurez ça, voilà. On vous ment. Qu'est-ce qu'il disait déjà Bolloré quand il était auditionné, les castes. C'est la caste qui vous ment, et voilà. Et vous voyez, on censure les chevaliers blancs, etc. Bon. Donc, moi, je pense que ça va être voté pour cette raison. Et du coup, M. Along pourra également s'en vanter en disant, vous voyez que mon travail est de qualité, la preuve, il a été voté. C'est pile je gagne, face je gagne. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Sugar me disait que d'après les fuites, comme moi, je n'ai pas vu, il y a des propos problématiques dedans. Alors, Est-ce que le rapport, c'est là où je mets un bémol à ce que je viens de dire, est-ce que le rapport va être ce point problématique dans son contenu par des attaques fallacieuses ou des mensonges ou des erreurs comme on a vu pendant la commission? Et dans ce cas-là, une majorité de membres ne vont pas voter, mais dans ce cas-là, voilà, ça jouera la censure, quoi. Pile je gagne, face tu perds. Exactement, oui, c'est ça. Ou pile je gagne, face je gagne. C'est bien aussi. Dans tous les cas, il gagne, quoi. Dans la forme de démocratie numérique des réseaux sociaux dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans tous les cas, ça gagne, quoi. Mais on en reparlera en début de semaine prochaine. Je pars en vacances, je rejoins ma famille, là. J'ai une partie importante de ma famille qui vit au Maroc depuis très longtemps, et donc chaque année je vais au Maroc à peu près, en général à Pâques. Et donc là je vais la semaine prochaine, je pars samedi là au Maroc, mais j'emporte mon setup, donc je vais streamer tous les jours, il y aura de la revue de presse tous les matins. Voilà, donc on se penchera sur cette actualité, bien sûr, au soleil marocain. Oui, mais enfin moi je serai devant mon setup, hein. On sera pas sous le soleil, ça va lire les journaux ici, hein. Hier sur Backseat, un des députés de la commission disait que Along avait rédigé le rapport dans l'optique de se faire censurer. C'est malin. C'est malin. En vrai, c'est malin. Je serais Along, je ferais ça. Je ferais un rapport tellement de dingo qu'il est invotable. Voilà. C'est-à-dire que me disant que si je fais un rapport sérieux, les gens vont dire qu'il est naze parce que finalement, à l'épreuve des faits... Parce que le problème, c'est que si ce rapport est publié, tout le monde va pouvoir s'en emparer. Tout le monde va pouvoir l'analyser. Et les postures, c'est bien. Les mensonges, les approximations en audition, c'est facile. Mais une fois que c'est écrit, c'est beaucoup plus facile à débunker. Donc effectivement, moi, je serais à Long, je ferais ça. Je ferais un rapport tellement dingo par son contenu qu'il n'est pas voté. Voilà, et je me mets dans cette position du gars censuré. C'est vrai. Ah, c'est Erwan Balanan, l'invité de Backseat. Alors oui, ça, c'était vraiment le député qui s'est pris le bec beaucoup avec M. Along aussi. Donc c'est important aussi de le comprendre pour le contexte. D'accord. On va voir. Moi, je pense qu'il va être voté. Mais j'ai pas cette info. Si vraiment le rapport qui fait... quelqu'un me dit 400 pages, moi, j'ai lu plus de 300 pages. Si le rapport est vraiment une dinguerie, ça va être impossible. Dinguerie dans le sens où ni fait ni affaire. Ça va être impossible pour les membres de la commission de le voter. Mais là, ça va se retourner contre eux, quoi. Instant. 400 pages, le Parisien? Ah ouais, ce serait 400 pages. Mais qu'est-ce qu'il a mis en 400 pages? Il a mis ses tweets?
Pardon, soyons factuels, s'il vous plaît.
Je vous remercie pour votre réponse.
De rien, de rien. Réunion entre députés lundi 14h. Ah, Nawal Paris a des infos. Il y aurait une réunion lundi à 14h pour demander à Long de changer des trucs. Ah, avant le vote? Ok. Après, moi, ça m'intéresse que ce rapport sorte. À titre personnel. À titre très très personnel, j'aimerais beaucoup que ce rapport sorte. Pour moi. Pour des trucs. Que j'ai des choses, de nouvelles choses écrites. Sous la plume du rapporteur. Pour un autre truc. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il soit voté, moi. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, il reste deux infos assez passionnantes. Alors moi, je suis fasciné par cette histoire de la question de l'énergie aujourd'hui est une des questions centrales dans notre société, dans le monde. Hein. C'est la révolution énergétique. Dans nos consommations, dans notre production, dans les conséquences sur l'environnement, bien sûr. Et là, il y a un papier dans les Échos que j'ai trouvé génial sur une révolution. La révolution, l'autre révolution, donc il y a la première révolution, c'est le boom de l'énergie, des énergies renouvelables. Ça, on a fait le point sur les chiffres cette semaine, il se passe un vrai truc. T'inquiète, Alexandra, tout va bien. Et là, il y a une autre révolution, c'est celle de la batterie, des batteries fixes. C'est un papier dans les Échos. Des prix divisés par 100, un parc qui double presque chaque année, l'essor des batteries fixes couplées à des panneaux solaires va chambouler le monde de l'électricité. Parce que on sait que le problème qui freine notamment le développement des énergies renouvelables, c'est le stockage de l'électricité produite par les éoliennes, par exemple, ou les panneaux solaires. Hein ? Et là, il est en train de se passer un truc. Merci Ozenov, merci Pépin Camille. Et si la batterie ne changeait pas seulement le téléphone et la voiture, et si elle changeait le monde de l'énergie ? Dans le langage courant, la batterie est un composant de téléphone mobile à recharger de plus en plus souvent ou une boîte très lourde dans une voiture. Hein ? Mais dans la vraie vie, la batterie est en train de prendre une autre dimension en devenant le complément indispensable des panneaux solaires et éoliennes. Je trouve ça fascinant. Car si le soleil et le vent sont des sources d'énergie formidables, renouvelables et non émettrices de CO2, ils ont un gros défaut. Ils ne sont pas là tout le temps. Hein, le vent, le soleil. Alors, par exemple, Iror nous dit dans le chat, mon père s'est équipé de batteries comme ça avec ses panneaux solaires. C'est un investissement, mais il y a moyen d'être complètement autonome. Voilà. Donc, soleil et vent, formidable, mais gros défaut, ils ne sont pas là tout le temps. Ces sources sont intermittentes et nous avons beaucoup de mal à accepter l'intermittence, par exemple, dans un ascenseur. Ces sources sont intermittentes et nous avons beaucoup de mal à accepter l'intermittence, par exemple, dans un ascenseur. C'est excellent. Des petites vannes cachées dans l'article comme ça. Allez, je monte au sixième. Ouais, alors par contre, on va s'arrêter 2 heures au troisième. Parce que c'est intermittent. Voilà. Ou devant notre série préférée. Ou devant notre stream préféré, si je puis me permettre. Les batteries stationnaires qui ne bougent pas, contrairement à celles des vélos ou des mobiles, sont en plein essor. Les spécialistes parlent de BE2S, acronyme de Battery Energy Storage System, système de stockage d'énergie par batterie. La fondation Volta, qui publie chaque année le rapport de référence sur le sujet, estime dans sa dernière édition publiée fin 2025 que la décennie BES, BE2S, ouais, oui, tout à fait, Amadou, t'as raison. La décennie baisse poursuit au même rythme avec à la fois des chutes impressionnantes de prix, c'est la clé du truc, hein, 31% sur un an, des politiques favorables au stockage, des nouveaux marchés, tandis que les performances techniques des produits baissent, continuent de s'améliorer, densité énergétique, efficacité, sécurité. Prolongeant un constat posé par l'agence, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie en 2024, estimant que la batterie de stockage a été la technologie énergétique qui a le progressé le plus vite en 2023. Sans compter, tu as raison, Mary, les performances des panneaux électriques de plus en plus intéressantes. Le parc double pratiquement chaque année, donc de ses batteries fixes. En 2025, la capacité mondiale de stockage par les BESS a dépassé celle du stockage hydraulique par pompage-turbinage. Alors, je ne suis pas un spécialiste du pompage-turbinage, mais bon, c'est intéressant. La même année, un État australien, l'État de Virginie, a consommé davantage d'énergie venant de batteries rechargé par les énergies renouvelables que de centrales à gaz. Homme Coco nous dit, je travaille dans le secteur de l'énergie et c'est vraiment des projets qui sont évoqués. Le problème reste le coût et la rentabilité à long terme pour le moment, mais une fois développé, effectivement, c'est l'avenir. Cette formidable ascension est alimentée à la fois par l'offre et la demande. Du côté de l'offre, il faut bien sûr regarder du côté de la Chine. Les fabricants de batteries ont fait des avancées technologiques impressionnantes sous la pression des constructeurs automobiles. Vous savez que l'industrie automobile chinoise a explosé avec les véhicules électriques. Dopés par des subventions massives, ils ont investi dans d'immenses usines. Progrès technique et surcapacité ont provoqué un effondrement des prix, comme pour les panneaux solaires une décennie plus tôt. Du côté de la demande, cet effondrement des prix ouvre d'immenses perspectives, car la batterie est aux énergies intermittentes ce qu'est Internet à l'ordinateur, un formidable amplificateur d'utilité. J'adore cette phrase. La batterie est aux énergies intermittentes ce qu'est Internet à l'ordinateur, un formidable amplificateur d'utilité. Avant les réseaux numériques, un ordinateur pouvait traiter des masses d'informations mais sans les transporter. C'était à la fois puissant mais cantonné. Dans l'énergie, il se passe la même chose. Le solaire et l'éolien sont des sources précieuses mais intermittentes. En stockant l'électricité à prix abordable, la batterie va changer la donne. Or, en 35 ans, le prix des batteries a été divisé par 100. Voilà. Mesuré en dollars constants en 2026, le coût du kilowattheure stocké est passé de plus de 10 000 dollars à une Cantonné. Rien à voir avec la Chine. Vous suivez pas. Oh ! Et passer de plus de 10 000 dollars à une centaine de dollars. C'est ouf, non ? Alors, des batteries couplées à des panneaux solaires ne peuvent bien sûr pas tout régler. Impossible, par exemple, de garder de l'énergie accumulée pendant les journées ensoleillées de l'été pour les froides nuits d'hiver. Aujourd'hui, on ne sait pas stocker l'énergie de l'été pour la rendre l'hiver. Au-delà de quelques heures, la perte d'énergie est trop grande. Mais ces quelques heures peuvent déjà considérablement changer la donne. L'énergie solaire et les batteries peuvent déjà couvrir 90% de la demande d'électricité de l'Inde à un prix compétitif. C'est fou, non ? En Chine, le stockage se développe maintenant presque aussi vite que les sources d'énergie renouvelables. Le pays compte déjà 20 mégafermes de batteries. Chacune peut alimenter 3 millions de foyers pendant une heure. Aux States, la Californie a accéléré après une grande panne d'électricité en 2020, et le Texas compte encore plus de projets. Le Chili et l'Australie sont en pointe aussi. En Afrique, des dizaines de millions de foyers vont pouvoir enfin accéder à l'électricité pendant la journée et en soirée. D'après l'AIEA, 80% de la croissance de la consommation mondiale d'électricité devrait se concentrer dans les régions bénéficiant d'un fort potentiel solaire au cours de la prochaine décennie. Genre la Bretagne. Non, je déconne. Là où il y a déjà des réseaux puissants comme en Europe, les batteries fixes peuvent aussi servir à réguler le réseau en assurant l'équilibre entre offre et demande, en maintenant la fréquence du courant. Des foules d'usages sont imaginables. Des supermarchés tenus par la loi de mettre des panneaux solaires au-dessus de leur parking commencent par exemple à stocker une partie de leur électricité pour alimenter le magasin en électricité bon marché à la fin de la journée. Le potentiel est immense à trois conditions. D'abord, maîtriser la dépendance à l'égard de la Chine. Ensuite, rendre les réseaux électriques vraiment intelligents pour exploiter toutes les possibilités en intégrant au mieux l'énergie venant d'autres sources non fossiles, nucléaire, barrage, batterie de voiture. Hein ? Qu'est-ce que... Ah, j'ai encore un mail de taf, excusez-moi. Heureusement que je... Ouh. Depuis nos échanges, le projet a bien avancé. Votre profil a été reconnu comme une piste prioritaire. J'adore. Ah, cool. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Encore un projet. Je ferme. Donc, d'abord maîtriser la dépendance à l'égard de la Chine, rendre les réseaux électriques vraiment intelligents pour exploiter toutes les possibilités en intégrant également l'énergie venant d'autres sources non fossiles, nucléaire, barrage, batterie de voiture. Enfin, repenser l'organisation du secteur pour passer d'une gestion très centralisée à des formes très variées. La batterie, c'est aussi un défi culturel. J'adore ! Vous trouvez pas ça fascinant ? C'est fou, non ? Ventrèche me dit, faut arrêter, il y a plein de soleil en Bretagne, il faut juste mettre des panneaux solaires au-dessus des nuages. Je valide. C'est génial, non ? Ça peut aussi devenir une stratégie pour stocker l'énergie au prix le plus bas et la revendre au plus haut. C'est top. 22 degrés, plein soleil ici en Bretagne, me dit K-E-I-M-I-M. Ouais, c'est ça, ouais. Menteur. J'ai le droit de le dire, je suis breton. J'ai la carte. Se pose la question de la durée de vie des batteries, me dit Flamby. Risque incendie chez le particulier aussi. Oh, j'ai vu un papier hier dans le Parisien, je sais plus où, sur une batterie de vélo comme ça qui a flambé sur un canapé chez des gens. Là, l'appart, il est parti en fumée là. Ouais, faut faire gaffe à ça, ouais. Intéressant. Restez, parce que dans un instant, on va partir sur la chanson de Patrick Sébastien sur Delphine Ernotte. Ça va être la régalade. Hein. On a le droit de passer 7 secondes là. Restez, parce que là, on finit en beauté. Hein. C'était pas de trottinette? Hein? C'était trottinette? Je crois que c'était un vélo, moi. Mais ouf. Enfin, batterie, quoi. C'est peut-être une autre histoire. On finit le stream sur une bonne note. Bah, un nom, du coup. C'est Patrick Sébastien. Ouais, faudra régler ce truc, ouais. Tortue à chaise me dit: ma mère qui travaille à la section incendie de Seine-Saint-Denis Habitat, il y en a beaucoup, les incendies causés par les batteries de trottinettes et vélos chez les gens. Tu n'aimes pas Patrick Sébastien? Pourquoi? J'adore, moi. Qui n'aime pas Patrick Sébastien? Qu'est-ce que... Je vais te chanter les sardines, moi. Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte? Chante les sardines, et qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte? Tant, 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 les aromates. Hey! Beaucoup, moi. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que, justement, régulièrement, moi, je m'intéresse à l'actualité de la chanson française, et il y a un nouveau titre de Patrick Sébastien qui vient de sortir, qui est sorti hier. J'ai un article dans le Huffington Post là-dessus. Là, je vais mettre ça sur YouTube d'ailleurs. Attention, 3, 4. Amis de YouTube, on vous gâte. Dans la revue de presse de ce vendredi matin sur Twitch, il y avait une deuxième info qu'on voulait mettre en avant pour vous. Un nouveau disque, une nouvelle chanson de Patrick Sébastien. Alors c'est un débat un peu, pas que musical, mais qui est un peu politique aussi, puisque... c'est issu de son audition de Patrick Sébastien devant la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public. Voilà. Patrick Sébastien, le chanteur, avait notamment critiqué la présidente de France Télévisions et avait promis, lors de cette audition, de lui faire une chanson. Bah, la chanson, elle vient de sortir. Elle est sortie hier. Donc, on va lire ce papier. On va écouter un petit bout de la chanson, vite fait, hein, parce que par rapport au droit de la chanson, tout ça, je ne veux pas abuser. Je crois que j'ai le droit à 7 secondes. On va peut-être d'ailleurs aller, pour commencer, peut-être sur... écouter le Patrick Sébastien, ce qu'il avait dit lors de la commission à l'Assemblée. Il faut que j'aille sur le Huff Post. Hop. Je vais vous faire écouter ça. Pin, 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 pin. Alors là, c'est le Huff Post. Là, vous allez dans les pages culture, un peu vers le bas. Vous allez trouver ça en 2-2. Divertissement, est-ce qu'ils ont mis ça en divertissement? Non. Environnement, non, pas vraiment. International, peut-être pas au sport non plus. Est-ce qu'ils l'ont mis? Il est plus là, Patrick Sébastien? Ah, il est là. Ah oui, il est quasiment à la une.
Ok.
Donc là, ici, c'est devant la commission. Il y a une petite pub, on va attendre qu'elle passe. Et après, on va enchaîner avec l'article. Puis on écoutera, si vous êtes sage, on écoutera un petit bout de la chanson. Alors que le HuffPost a trouvé vulgaire. Oh! C'est très subjectif, ça.
On sait que Madame Ernotte est intouchable.
Donc, ça, c'est Patrick Sébastien qui était, contextualisons, parce qu'on aime contextualiser ici, en compagnie de Michel Drucker, au premier plan, que vous reconnaissez, et Patrice... C'est Patrice Cardoz? Ou Patrick Cardoz? Patrice Cardoz, ancien journaliste de France Télévisions. Non, c'est Jacques, putain, je confonds avec quelqu'un d'autre, pardon. Avec Jacques Cardoz, c'est marqué sur son papier, là. Je suis nul. Donc, écoutons Patrick Sébastien pour commencer. Qu'est-ce qu'il dit?
Madame, si on continue à penser que Madame Ernotte est intouchable, je vais me venger avec une chanson.
Patrick Sébastien n'a pas retenu ses coups contre la patronne de France Télévisions et a au passage indirectement attaqué Nagui. L'ex-présentateur du plus grand cabaret du monde était auditionné par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public ce 31 mars, aux côtés de Jacques Cardoz et de Michel Drucker. Patrick Sébastien a multiplié les critiques virulentes contre Delphine Ernotte.
Ce que je voulais dire pour entrer dans le vif du sujet, c'est que pendant des années, sur le service public, tout s'est merveilleusement passé. Et jusqu'à l'arrivée de Delphine Ernotte, on faisait tout pour que nos émissions marchent. Et quand Madame Ernotte est arrivée, on a tout fait pour qu'elle ne marche pas. C'est-à-dire que d'entrée, Madame Ernotte voulait me dégager, clairement. On ne partage pas du tout avec Michel, autant on a une amitié imperturbable
et indéfectible.
Autant on ne partage pas le même avis sur Delphine Ernotte que moi j'estime. En plus, moi j'ai été victime par la suite de... Ça continue pour moi, hein. Je veux dire, Michel, ça tombe bien qu'il soit là. Madame Ernotte, à la suite du fait que j'ai été viré de France 2, il faut que vous sachiez quand même qu'elle a interdit à tous les animateurs de me recevoir comme invité. J'étais interdit. Il n'y en a qu'un qui a résisté. J'ai dit à Michel, quand il a voulu m'inviter, j'ai dit attention, on va te dire de ne pas me recevoir. C'était arrivé pour C'est à vous, etc. Et tout. On leur a interdit de faire des reportages sur ce spectacle. Et vous Michel m'a reçu quand même sur France 3.
Vous confirmez, M. Drucker, qu'on vous a demandé de ne pas recevoir?
Non, on ne l'a pas demandé.
Ah, d'accord. Non, vous avez carte.
Ce que je veux juste rajouter pour expliquer qu'il y a eu ça, on m'a interdit. La dernière fois que je suis passé chez Cyril Hanouna, que j'ai un peu parlé de ça, dès le lendemain, mes contrats confidentiels se sont retrouvés sur un réseau social payant, et ça ne peut venir que de France 2, parce que c'est pas moi qui les ai donnés, et je ne parle même pas du complément d'enquête où Madame Ernotte s'est payée mon procès avec l'argent public, avec des mensonges et des délations incroyables. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que j'ai pas d'animosité particulière. Mais cette dame me poursuit depuis le départ. Et je trouve que sur un service public, elle n'y a pas sa place. Ça, c'est mon avis. Pour ce qui est de la violence, de la manière dont elle a été virée, je crois que Laurence Boccolini, plein d'autres, il n'y a pas d'humanité. Vous savez, j'ai travaillé sur TF1. Lelay, Moujotte, c'était des gens...
Alors, j'écoute parce que moi, je l'ai pas écouté cette audition. Jacques Cardoz, Patrick Sébastien et Michel Drucker. J'ai trouvé qu'il y a d'autres qui étaient plus intéressantes, d'après ce que j'en avais entendu. Donc là, c'est pour ça que j'écoute, parce que je n'ai pas du tout écouté ça. En prenant un peu le temps, on va pas tout écouter. Bon, on va jusque-là, jusqu'à 2,50, et après on enchaîne avec la suite de l'article et l'extrait de la chanson.
Qui était difficile, mais ça s'est toujours passé avec respect, avec humanité. Toujours. J'ai travaillé pour M. Berlusconi, qui est très critiquable, et je vous promets que sur la 5 avec Berlusconi, il y avait 100 fois plus d'humanité et de respect du public que j'en ai trouvé sur le service public. Je continue à penser que Mme Ernotte est intouchable, je vais me venger avec une chanson.
Ah bah parfait, bah justement, c'est l'actu, ah bah on y va. Et donc, cette chanson, elle vient de sortir. Elle vient de sortir, et donc c'est le Huffington Post qui en fait un article. Qui est ici. Patrick Sébastien a sorti sa chanson sur Delphine Ernotte et c'est aussi vulgaire que prévu. Vulgaire, vulgaire. On l'a pas écouté déjà, donc on va voir. Puis c'est très relatif. Donc on va écouter, mais quelques secondes seulement. Vous irez l'écouter sur la chaîne YouTube de Patrick Sébastien si vous le souhaitez. Pitié, mets-la en entier. Mais j'ai pas le droit, j'ai pas les droits. J'ai pas le droit. Je voudrais pas que sur YouTube la vidéo se fasse strike alors que le sujet est intéressant. Donc l'animateur et chanteur a mis en ligne ce titre. Qui s'appelle Delphine, qui est la chanson, écrit sur la présidente de France Télévisions, qui l'avait annoncé il y a plusieurs semaines. De la poésie à l'état pur, non. Ce vendredi 24 avril, Patrick Sébastien a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une nouvelle chanson, mais pas n'importe laquelle, intitulée Delphine, elle est destinée à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, que le chanteur et animateur de 72 ans estime responsable de son renvoi de France 2. On ne s'attendait pas à moins de ça de la part de l'auteur des sardines, de tourner les serviettes du petit bonhomme en mousse. Tata, j'adore. En amont de la sortie de son nouvel album de chansons paillardes Olé Olé, volume 2, il avait promis lors de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public de se venger. Comme je continue de penser que Delphine Ernotte est intouchable, je vais me venger avec une chanson. Enfin, me venger, non, mais pendant des années, elle m'a pris pour un personnage vulgaire et grossier et je voudrais lui donner raison dans ma prochaine chanson. C'est donc chose faite, nous choisissons de ne pas vous la repartager en entier, mais d'en dévoiler quelques extraits bien sentis. Alors, ce qui est bien, c'est que les paroles sont dans l'article. Alors nous, on va l'écouter un petit morceau de cette chanson Olé Olé. Il faut bien choisir, ouais, le problème c'est qu'il faut bien choisir les 7 secondes. Merde, comment je fais pour écouter, pour caler sans que vous entendiez, vous? Ah bah si, bah je vais regarder sur mon. Faut bien. J'ai droit qu'à 7 secondes. Chante là? Non mais juste le. Attends, je vais. Parce que je l'ai dans ma playlist maintenant. Je coupe mon micro, hein? Ok, ça commence à 16 secondes. Alors je me mets à 16 secondes. Voilà. Voilà. À 16 secondes. Et on a droit à 7 secondes. Donc faut que je cut à 20, 23. Prêt? Profitez, hein. Ça, c'est un petit plaisir du vendredi matin, ça.
Delphine, si t'avais connu ma pile, on aurait été si heureux. Delphine, si t'avais connu ma pile, on aurait été amoureux.
Bon, là, je dépasse, je dépasse, je dépasse. Je dépasse. Si j'ai un peu dépassé. J'ai un peu dépassé. Mais l'article nous dit la suite des paroles. Alors, je lis. La chanson est humoristique et parodique. Voilà. La phrase qui revient le plus souvent dans le refrain est donc « Delphine, si t'avais connu ma pine », ce qui rime, si je puis me permettre, avec « copine », suit de diverses chutes de type « On aurait été si heureux, on a été amoureux, tu aurais eu les larmes aux yeux » ou encore « Ça aurait été merveilleux », mais aussi et surtout « Il serait resté sur France 2 ». La chanson est humoristique et parodique, mais elle a surtout comme objectif d'attaquer frontalement la présidente de France Télévisions. C'est d'ailleurs limpide dans les paroles, même si Patrick Sébastien avait assuré dans une vidéo Instagram en amont de la sortie du titre que toute ressemblance ne serait qu'une pure coïncidence. Attends, le gars. Pardon. Patrick Sébastien annonce à l'Assemblée une chanson sur Delphine Ernotte, et quand elle sort, elle dit: Ouais, mais c'est le même prénom, mais c'est une coïncidence. Après avoir évoqué un doigt du milieu qui reste dressé, ok, je l'ai. Il ajoute dans un couplet, tu aurais pu bronzer tranquille, donc il parle toujours de Delphine Ernotte. On aurait pu bron Tu aurais pu bronzer tranquille en caressant mes noix de coco. Mes jolies noix de coco toutes blanches de plus de 50 ans. Je pense que le journaliste qui a écrit cet article, c'est Loïs Delacote qui a écrit l'article. Une phrase qui fait référence à des propos tenus par Delphine Ernotte lors de sa prise de poste. Elle avait déclaré que France Télévisions était occupée par des hommes blancs de plus de 50 ans. Ce qui, selon Patrick Sébastien, avait en partie conduit à son départ précipité. Lors de son audition à la commission d'enquête, Patrick Sébastien avait largement pointé du doigt celle qu'il estime être en très grande partie responsable de son éviction de France Télé en 2018, où il animait encore le plus grand cabaret du monde. Bon, ça, on l'a entendu à l'instant. C'est dommage, on n'a pas les. On n'a pas les paroles. Sur Internet, on les a pas. Parce que là, on a un petit goût de pas assez, quoi. On les a ou pas? Ah, j'ai un article dans la dépêche. Y a plein d'articles. Il y a plein d'articles. Pardon. Delphine. Alors. Ah, il n'y a pas beaucoup de paroles là. Quelqu'un, elle est les modos, vous n'auriez pas trouvé un lien? Je vais me faire taper sur les doigts. Patrick Sébastien règle ses comptes avec Delphine Ernotte dans une chanson obscène. Le Figaro TV Magazine. Ah, les noix de coco, ils en parlent. Ah, une petite pub qui s'est ouverte là. Hop. Oh, j'ai dit stop. Ah, c'est dommage, ils prennent toujours les mêmes extraits. Bon, tant pis, on restera là-dessus, quoi. Sur YouTube, t'as les paroles, je crois, en retranscription. Quoi? Attends. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Non. Regarde, on a ça, en fait. Là, c'est play. Je l'ai pas. Non, mais on a compris quoi. Alors les commentaires, c'est toujours. Ah, si tu mets les sous-titres? Ah! Non disponible. Ah, il veut pas. Alors les commentaires. Un étron avec des confettis dessus, Patrick Sébastien. Merci Patrick, je vous soutiens avec plein de cœur. J'aime bien lire les commentaires, moi. Sébastien, des cœurs, bravo. La définition de l'amour, je pleure de rire. Bien fait pour Ernaut, tu es génial. Bravo Patrick, tu es exceptionnel, j'adore. Simple, efficace. La perfection. J'adore, ça c'est osé. Elle va être contente, Delphine. Waouh. Claire, net, sans bavure. Bravo l'artiste. Bon, les amis, je crois que vous êtes assez grands. Si vous souhaitez écouter ce morceau, l'un des derniers titres de Patrick Sébastien, après Les Serviettes, Le Petit Bonhomme en Mousse, eh bien, le titre s'appelle Delphine et vous le retrouvez sur la page YouTube de l'ami Patrick Sébastien. Ami de YouTube, en général, l'info que nous évoquons ici est plus sérieuse, mais si vous avez aimé ce petit passage, n'hésitez pas à mettre un pouce et à follow cette chaîne. C'est mignon, ils sont en train de chercher les paroles. Bon, elle était pas mal cette petite revue de presse. 2h35, c'est court par contre. Hein. Mais c'est dense. Mais c'est dense. Voilà. Merci, j'ai passé un super moment avec vous. Voilà, c'était cool de parler de Macron, qui dit qu'il va arrêter la politique après 2027. Des relations entre le RN et le grand patronat. De ce quartier, de ce petit quartier face à un homme raciste en quête de Mediapart. Des Jeux Olympiques des dopés. De la révolution de la batterie à l'instant et du dernier titre de Patrick Sébastien. Pourquoi? Parce que ici on aime la culture. Je suis assez à jour de mon travail, ce que j'appelle la paperasse, les dossiers, les projets, les trucs là. Il y a un monde où je lance un stream ce soir ou peut-être même cet après-midi. Hier soir on a fait un stream sur un jeu exceptionnel, un jeu extrêmement émouvant. Je vais vous en donner son titre exact. C'était What Remains of Edith Finch. Voilà. Vraiment, c'était incroyable. Donc là, vous l'avez en replay. Cette revue de presse, vous l'avez aussi en replay sur Twitch pour les abonnés, sur YouTube à partir de demain. Les petits extraits dans les prochaines heures postés par l'ami Mathieu. Et évidemment, cette revue de presse, elle est en podcast audio tous les jours et elle est postée à partir de 15-16 heures. Voilà. Merci pour aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous de l'actu. On va aller raid maintenant, aller voir qui est en live. Je regarde un peu les amis qui sont en live là. Ah, je sais pas. J'aime bien regarder des joueurs de Valo, moi. Ça vous dit de partir sur du Valo? Oh, Citron Violet, je l'ai raid deux fois ces derniers jours. Je vois une propale dans le chat là. Pourquoi j'ai ça moi? Ouais. Sinon j'avais trouvé moi. J'avais trouvé du Valo. Ah, voyons. Un peu de Valo non? Alors, je vois plein de propales là. Non, pas Valo UPS, non. Non, 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 non. Mais non, ils sont fous. Allez, moi, allez, une streameuse, il faut soutenir les streameuses. Ok, on est sur Valo. C'est Adèle que nous allons raid. Ok. Et le titre du stream, c'est 300 jours pour devenir forte à Valo. J'ai déjà raid Adèle. Voilà, c'est parti. Je lance, je charge, je vous retrouve ce soir ou cet après-midi. Des bisous, merci pour tout, bonne fin de semaine, bon week-end. Je coupe ici. Il est où le bouton? Il est là. Ah, et puis bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances ou qui ont la chance de peut-être prendre des vacances très très vite. Je vous retrouve dans quelques heures et après on se retrouvera lundi pour la suite de la revue de presse depuis les vacances marocaines. Bisous, merci pour ce matin.